Vous écoutez
RMC.
RMC.
Moi, je pense qu'on a plus de grands artistes. Il n'y a plus de Salvador Dali. Il n'y a plus de Andy Warhol. Je pense que les footballeurs aujourd'hui, c'est les grands artistes de cette société.
Le vrai Tchouaméni, je pense qu'il a sa place en tant que titulaire au Real Madrid. Et je suis sûr. Enfin, je suis sûr. Non, je ne suis pas sûr. Mais
je ne sais pas pourquoi. J'allais dire le mot en anglais, mais pourquoi
comment ils peuvent s'en sortir, sauf à penser qu'on n'a pas pensé, justement, que la direction sportive n'a pas pensé cet été à ce qu'il fallait, là où il fallait renforcer l'équipe.
20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamin.
Bonsoir à toutes et à tous et bonjour à toi qui nous écoutes en podcast, c'est Génération After spécial. Drôle de dame. La seule émission à la radio française qui parle pendant 2 heures de football étranger, même quand les candidats aux municipales se déchirent avant le second tour. Pour l'Angleterre, une drôle dame qui aurait été élue dès le premier tour, elle, grâce à son sourire ultra bright, sa distribution de Rolex des fausses hein, pendant la campagne, puis parce que le monde est son frérot. Bonsoir, Julien Laurence.
Salut mon Nico, salut à tous. C'est vrai, tu as raison. Puis j'ai des connexions un peu partout. D'ailleurs, je voulais remercier Alban et Yannick qui nous écoutent parce que sans Alban, surtout, je serais pas allé à Paris pour la victoire du PSG contre Chelsea. Un problème de passeport. Donc merci à elle, merci à eux.
Tu connais des gens au consulat, à l'ambassade,
un peu partout.
C'est ça?
Il
d'accord,
faut bien.
Okay, très bien. Pour l'Allemagne, une drôle dame qui ne se présentera jamais à une élection car elle ne veut pas soumettre ses idées à un peuple décérébré sans conviction. Bonsoir Paulo Breitner.
Bonsoir Nicolas, bonsoir tout le monde. Petite félicitation à la ville de Brionne, parti communiste a gagné contre le Front National et ça c'est bien.
Pour l'Italie, une drôle de dame qui passerait pas le premier tour chez lui en Italie car proposer de l'amour, de la poésie et de la musique, c'était un peu léger comme programme. Bonsoir Daniele Manoussi.
Bonsoir, la taxation au 80% pour le riche.
Un grand capital, d'accord, ok.
Ouais.
Pour l'Espagne, évidemment, une drôle dame qui ne peut pas se présenter car elle n'a pas encore l'âge de voter. Bonsoir, Garnier.
Eh oui. Salut Nico, salut tout le monde.
Ouais, l'année prochaine, je te lâche avec ça, d'accord. Tu seras majeur, tu auras 18 ans.
Bon, tu peux y aller, attends.
C'est marrant, continue Nico.
Ouais, si tu veux, ouais.
Bah oui.
Sauf qu'un jour, il aura 30 ans, ce garçon. De quoi allez-vous nous parler ce soir, les drôles de dames, 15 secondes chacune. C'est parti, je commence avec toi, Julien.
On a vécu un week-end de fou sur les terrains, en dehors des terrains, en première ligue. On va parler de Max Darmon, bien sûr, à 16 ans et 73 jours, qui vient débloquer la situation pour Arsenal. On va revenir sur Chelsea, bien sûr, qui a perdu avant de recevoir le PSG demain soir dans son match de retour de Ligue des Champions. On va parler aussi de Liverpool, de Bruno Fernandes, d'Aston Villa, un peu de tout ça, et puis ce qui s'est passé en dehors des terrains, des scènes assez cocasses.
Edgar.
Ici aussi, il y a des élections. Laporta a réélu président du Barça hier. On va essayer d'expliquer pourquoi il a gagné aussi largement. On va revenir sur la semaine incroyable de Fede Valverde. Ça change quoi concrètement pour le Real d'avoir un Valverde de retour à ce niveau-là? Il y a le fiasco de la finalissima aussi, Argentine-Espagne, qui a été annulé. Et pendant la minute, je vous raconterai comment un joueur de Liga a été expulsé pour avoir pincé les parties intimes de son adversaire.
Tu en dis trop Edgar. Polo.
Alors on va s'intéresser à l'attaquant ou 9,5 de Stuttgart, Denise Undav, au parcours très très particulier. Évidemment et malheureusement, on a parlé arbitrage en Ligue des Champions la semaine dernière. Cette fuite aussi contre la rencontre entre Leverkusen et le Bayern Munich. On va ouvrir le dossier parce que l'Allemagne n'en peut plus. Faut-il supprimer la VAR pose officiellement certains médias allemands. Mayence qui risque de jouer Strasbourg en quart de finale d'Europa Conference League, Europa League, ouais, je sais plus. Voilà.
Et Europa Conference, ouais.
Ligue Europa Conference, ouais. Voilà. On va s'intéresser parce que quand même Urs Fischer, depuis qu'il est arrivé, 2 défaites seulement.
Ancien de l'Union Berlin. Ouais. Et puis Daniel.
On va revenir sur le match entre Como et Rome. On va se demander pourquoi tout le monde déteste Fabregas en Italie. On va parler de Milan qu'ils n'ont pas du tout intéressé à chercher de gagner le championnat. Et après, on va parler de la Juventus qui joue notamment sans numéro 9.
Voilà le programme, les drôles de dames. Il y a déjà beaucoup de réactions sur le chat de la chaîne YouTube de l'After. On est en direct vidéo, vous le savez, vos messages également. On nous parle d'Oman. Ça, c'est un vrai crack, pas comme Hendrik, notamment, nous dit Saint-Lasserre. On nous dit, Polo, faut qu'il parle de la recherche désespérée de gardiens pour le FC Bayern. Il faut passer une annonce, nous dit Ulrich également. On en parlera, bien sûr, notamment avant
Jean-Louis Tour.
La Talenta.
Il est disponible aussi.
Ah, bah là, on dirait, il y a quoi? 4 gardiens blessés. On verra qui peut être le 5e. L'After, c'est à 22h avec Gilbert. Bonsoir, Gilbert.
Salut à tous. Polo, c'est pas la peine d'essayer de nous faire peur avec Mayence. ça marchera pas. Voilà.
Bah, c'est un derby. Hein.
Oui, il y a combien de kilomètres qui séparent Séville ? Pas tant que ça. Ouais.
Centaines ? Francfort, c'est plus près.
Francfort, c'est
plus près. À l'époque, c'était plus près.
Bref. La Liga et la Coupe d'Europe au programme à 22h, parce qu'on a une semaine extraordinaire de Coupe d'Europe. Tous les matchs seront sur RMC, bien sûr, dès demain avec le PSG à Chelsea. Donc débat avant ce match-là, est-ce que c'est une simple formalité pour le PSG ? On parlera de Lyon. Lyon face au Celta jeudi. Et Lyon qui reçoit ensuite Monaco dimanche. Est-ce que Lyon peut tout perdre en une semaine ? Et puis la Ligue 1, Daniel veut donner son avis sur la dynamique du moment de l'OM. On va parler de la défaite de Lens ce week-end. Jean-Louis Tour qui est là veut donner son avis sur la suite de la carrière d'Olivier Giroud. Olivier Giroud qui était dans l'after hier soir, allez podcaster ça, c'était intéressant. Et puis le reste de l'actu Ligue 1 bien sûr également au programme, voilà, tout à l'heure 22h minuit, donc un after avec beaucoup de Coupe d'Europe parce qu'on est dans une grande semaine de Coupe d'Europe.
Eh oui, décisive, 32-16 ouvert hein, pour l'after comme pour les drôles de dames dès maintenant, également sur la chaîne YouTube et
sinon
after
donnez-moi
TV.
Le dernier bon gardien au Bayern, je cherche encore.
Dernier bon gardien au Bayern ? Comment ça ? Mais tu je comprends pas.
Outre Neuer, tu veux dire.
Ah, outre Neuer, tu mets Neuer de côté. Ah, même pas. Ah, d'accord, donc bon. De toute façon, il ne vit que pour José Luis Chilavert, Gilbert. Malgré ses dernières sorties d'ailleurs médiatiques.
Mike Pender. C'est pas le moment.
Peu reluisante, exactement. Pour ne pas
c'est
en dire plus.
Travail, famille, patrie.
Ouais. Il était un peu plus long que ça, je crois, ce garçon. Notamment d'accord. Sur Mbappé. Alors, demain soir, c'est parti pour les Drôles de Dames, hein, les amis, hein, Polo. Voilà. Demain soir, le 8e retour de Ligue des Champions à Stamford Bridge. 5-2 Paris à l'aller. Question simple, Julien, on va parler des absents, tout ça à côté de Chelsea, du week-end de Chelsea. Est-ce qu'on y croit vraiment là-bas, à Londres, à une remontada éventuelle ?
On y croit difficilement, pour être honnête. Alors je pense qu'il y a toujours de l'espoir, bien sûr, chez les supporters déjà. J'imagine dans le groupe même, dans le vestiaire, le Liam Rowe Senior, ses joueurs. Quand tu as des joueurs de la qualité aussi de Cole Palmer, de Joao Pedro, d'Enzo Fernandez, bien sûr que tu crois. Je pense que sincèrement, sur un bon jour, je l'avais déjà dit avant le match aller, c'est toujours vrai. Hein. Je pense pas que d'ailleurs que le match aller, c'était un match à 5-2 déjà à la base. Même s'ils ont pris une leçon de non, coaching pour Rowe Senior, d'efficacité pour les joueurs sur le terrain, de tout ce qu'on veut, certes, mais je pense que dans un bon jour, ils sont capables de mettre 3 buts au PSG. Le problème, c'est qu'ils vont sûrement en encaisser aussi. Et c'est qu'à un moment, pour revenir d'une défaite 5-2 comme ils l'ont eu à l'aller, il va falloir que tu sois quasiment parfait dans les deux surfaces. Et ça, pour l'instant, on l'a jamais vu cette saison. Chelsea être parfait dans les deux surfaces. Donc c'est effectivement beaucoup demandé. Ce serait l'un des plus grands exploits de la carrière de Rowe Senior, ça c'est sûr. Mais même sur ces dernières années-là de cette équipe, on l'a vu lors de la Coupe du Monde des clubs, gagner 3-0 contre le PSG, ils sont capables. En revanche, là comme ça, une semaine, enfin 6 jours après le match aller où encore une fois, ils ont affiché des belles choses avec ballon par moment, notamment en première période, et aussi des grosses lacunes qu'on avait déjà identifiées avant la rencontre. Il y a rien eu de surprenant finalement dans ce qu'on a vu de la part de Chelsea au Parc des Princes. À domicile à Stamford Bridge, c'est un petit peu différent parce que déjà t'as le public avec toi, c'est ton stade, etc., etc. Mais c'est vrai que ça paraît quand même compliqué et en tout cas dans les médias t'as pas vraiment l'impression qu'il y a ce vent de révolte et cet optimisme qu'on essaye d'apporter pour que tout le monde y croit vraiment, qu'il y ait cet esprit commando le soir du match, demain soir, et que ça passe. Après oui, s'il marque dans le premier quart d'heure par exemple, on va sentir la tension. Rappelez-vous aussi le PSG à Aston Villa la saison dernière par exemple, où ils mènent 2-0 à la mi-temps, ils sont 5-1 à ce moment-là sur les deux matchs. Ils se reposent un petit peu sur leur laurier, ils oublient un petit peu les bases, et puis ils commencent à prendre vague après vague après vague. Donc ce sera aussi au PSG demain de venir là et de jouer le match comme il le faut. Parce que du côté de Chelsea, de toute façon, la seule option qu'on a, c'est d'essayer de mettre le feu et de mettre la pression dès le départ.
Dès le départ.
Mais plus tu mets la pression, plus tu mets le feu, et plus tu risques aussi, en transition,
T'exposer. Bien sûr. Alors, ce sera sans Reece James, Julien. Ouais. Forfait. Et Malo Gusto, confirmé aussi, absence?
Alors pour Reece James c'est sûr, ça c'est sûr, et c'est sincèrement, alors Malo Gusto serait une mauvaise nouvelle parce qu'elle viendrait s'ajouter à celle de Reece James, ouais. Forcément. Mais Reece James déjà à la base, pour moi c'est pas la pire mauvaise nouvelle, on va dire, si je peux m'exprimer comme ça. Mais sincèrement c'est pas loin pour moi d'être le joueur de la saison, ou en tout cas un des joueurs de la saison pour Chelsea. C'est ton capitaine déjà aussi, c'est ton leader et mental et technique, qui peut jouer à droite, qui peut jouer en défense centrale, qui peut jouer milieu de terrain comme on l'a vu au match aller par exemple. On l'a encore vu samedi contre Newcastle où ils prennent un but de U11 comme je l'ai expliqué dans toutes nos émissions du week-end, où tu vois qu'il y a, s'il y a bien un joueur qui comprend la situation, c'est Reece James. Malheureusement, autour de lui, que ce soit Fofana ou Chalobah, ils sont à la rue totale, et tu prends un but comme ça, t'as l'impression que c'est un peu la faute de Reece James parce que Willock c'est son joueur, mais en fait pas du tout. Et donc son absence, je pense, va faire aussi très très mal. Et si en plus Gusto, dont on n'est pas sûr, mais ça semblerait effectivement être l'autre mauvaise nouvelle du soir, si les deux étaient forfaits, alors là, oui, c'est très compliqué. Il faut que tu mettes le jeune Archepong à arrière droit, ou alors que tu changes tout, que tu mettes un Fofana arrière droit et Tosin ou Archepong dans l'axe, ou que tu mettes Caicedo à droite. Enfin, après, tu commences à rentrer dans des trucs qui sont vraiment compliqués. Et encore une fois, pour revenir à mon point initial, pour que Chelsea se qualifie demain, il faudra que tout soit parfait, sincèrement. Et déjà, si en plus t'as pas Gusto et James, alors là, c'est pour être parfait, ce sera encore plus compliqué.
Bon, et Jorgensen également, il y a un souci, Julien, titulaire au match aller. Je regardais, la Rosseigneur dit aujourd'hui en conférence de presse, je prépare quelque chose de spécial. Bon, je sais pas ce qu'il imagine. Je rappelle qu'il a préparé un truc spécial également à la mi-temps du match contre Newcastle. Ouais. Ces joueurs qui entourent l'arbitre, toujours pas compris la démarche. Je sais pas si ça a été expliqué, notamment Julien.
Oui, oui, oui. Alors c'est pas la première fois. Ils font ça avant le début du match. Ça fait plusieurs semaines maintenant qu'ils font ça. Ouais. Et donc ils se mettent autour du ballon dans le rond central. Donc ils font un petit huddle, comme disent les Anglais. Donc un petit attroupement, ouais, là où tu te mets en rond, quoi. Et puis j'imagine que c'est un peu les huddles qu'on voit un peu partout, sauf que eux ils le font au-dessus du ballon, en fait, comme pour parler au ballon et se parler entre eux, se motiver juste avant le coup d'envoi du match. Pas de problème, jusque-là personne n'avait rien d'autre à dire. Alors tu trouves ça un peu bizarre, enfin pas bizarre, un peu particulier, parce que les autres le font en général dans leur moitié de terrain, pas vraiment autour du ballon comme ça, en plein dans le rond central. Mais c'est leur truc. Rossignol avait expliqué avant que c'est les joueurs qui avaient décidé, c'est une idée de Reece James, que lui n'avait rien à voir là-dedans, mais qu'il aimait que ses joueurs fassent ça pour être ensemble, etc. Tout ce qu'on veut, l'esprit d'équipe, tout ça, très bien. Pas de problème. Sauf que cette fois, deux choses. Mais oui. La première, c'est qu'avant le match, l'arbitre leur a dit, écoutez, moi, vous faites ce que vous voulez, mais moi, je serai devant le ballon, je serai là, sur le ballon, dans le rond central. En gros, c'est moi le chef ici, je fais ce que je veux, si je veux me mettre là, je me mets là, et à vous de vous adapter, en gros. Voilà. Alors, on peut critiquer l'arbitre pour ça, parce qu'effectivement, ensuite, l'image qui a fait le tour du monde, c'est de voir l'arbitre Paul Tierney avec son maillot jaune en plein milieu du petit groupe de maillot bleu de Chelsea. Il y a même Cole Palmer qui lui fait un petit câlin comme ça, là, par derrière, parce qu'on sait pas trop quoi en faire. C'est super étrange, j'ai trouvé ça super bizarre. J'ai trouvé que c'était surtout une mauvaise image pour la première ligue. Enfin, ça, on dirait un truc de cirque, quoi. C'était ridicule. Pas l'avant-match d'un match de première ligue.
On dirait un bug sur un jeu vidéo où la modélisation de l'arbitre est pas partie, quoi.
Oui, c'est ça. C'est
alors là, là où tu peux finalement aussi, critiquer, entre guillemets, un petit peu le geste des joueurs de Chelsea, c'est que le coup d'envoi là, c'est Newcastle qui l'avait gagné. Donc c'était à eux de faire l'engagement. Si c'est ton engagement, que tu veux faire ce que tu veux autour du ballon, parce que de toute façon, c'est ton joueur qui va prendre le ballon et qui va te donner le coup d'envoi du match, moi, j'ai pas de problème. Tu t'assois sur le ballon, tu fais des jongles, tu fais ce que tu veux, peu importe. Mais quand c'est l'autre équipe qui attend finalement que t'aies fini ton petit attroupement, là, ensemble, pour pouvoir donner le coup d'envoi. Et je pense que c'est ça, d'ailleurs, que l'arbitre a voulu aussi signifier dans un sens. Là, peut-être que tu peux, critiquer un tout petit peu les joueurs de Chelsea pour ça. Mais sinon, sincèrement, c'était facilement évitable. Et au final, je trouve que la première ligue se ridiculise dans un sens.
Ouais, et Paul Tierney, l'arbitre, a pas trop aimé la séquence, hein, d'être entouré comme ça, presque coincé entre les, au milieu des 11 joueurs de Chelsea. Ah, super bizarre.
Est-ce que c'est pire, c'est plus ridicule que ça, ou Tudor qui,
Tudor, on va en parler, mais
inconnu.
C'est une maladresse, ça, Tudor. Explique la scène.
Un chauve.
Ce qui est génial,
c'est qu'il
se trompe de chauve, quoi. Il se trompe de chauve.
Ouais,
et en plus, il prend l'entraîneur de Liverpool, Arne Slot, pour le mauvais chauve, qui est un de ses assistants, quelque part. Un mec du staff de Tottenham. C'est fou, quoi.
Donc, un mec qu'il a vu toute la journée, il va lui dire bonjour à 16h30. C'est ça, en fait.
Good job.
Et puis après, tu vois sur son visage, il regarde l'autre côté. Ah, en fait, l'autre banc, parce qu'en plus, il s'est trompé de banc, surtout, c'est ça le truc.
Le mieux, c'est la réaction après quand il se rend compte qu'il s'est planté, le mec.
Voilà,
c'est
exactement. De zone des entraîneurs, là. Il regarde après derrière, il dit, ouais, effectivement. Mais sauf que maintenant, avec toutes les caméras qu'on a partout, tu peux pas, ça, à tous les coups, tu te fais attraper.
Ça passe bien ces premières semaines à Tottenham, à Igor Tudor. Ah, on va en parler tout à l'heure, un petit mot quand même. Tiens, Chelsea, pour être complet sur le sujet Blues, Julien, sanction aujourd'hui pour les Blues, pour des paiements non déclarés, hein, notamment provenant de tiers liés au club, versés à des joueurs, des agents non agréés et à d'autres tiers et qui n'ont pas été déclarés aux autorités de régulation du football notamment. C'était entre 2011 et 2018, hein, également sur la période Roman Abramovich, amende de plus de 12 millions d'euros et interdiction de recruter pendant un an avec sursis. Voilà.
Ouais, c'est ça. Oui. Je vous raconterai quelques histoires un jour sur notamment les jeunes, les transferts des jeunes. Mais quand on parle de jeunes, on parle de jeunes, jeunes. 12, 13, 14, 15 ans, ce qu'on peut offrir.
C'est ce qu'ils offrent et qu'ils n'ont pas l'air d'offrir pour des gamins de 12, 13 ans.
À cet âge-là, tu peux pas offrir des maisons, des emplois, c'est pas possible. Mais ouais.
Je trouve que la sanction est clémente.
C'est pas les seuls, hein, il faut bien le dire. Ils se sont fait attraper, mais c'était pas les seuls non plus, il faut le reconnaître.
Bon, ils disent avoir trouvé un accord, en tout cas. Et voilà, c'est reparti maintenant, on remet tout à zéro. Pour Chelsea, rendez-vous demain soir, hein, face au Paris Saint-Germain au Bridge, à Stamford Bridge. Polo, parlons de Denise un peu. Parce qu'on en a fait beaucoup sur Harry Kane. Mais Denise Undav, décisif encore une fois avec le VfB Stuttgart, dans un match entre prétendants à la Ligue des Champions. C'était face à Leipzig ce week-end. Un but, encore une fois, marqué par Undav.
Bah oui, c'est son cinquième à la suite en Bundesliga. Il avait même marqué pour faire revenir un petit peu Stuttgart en Europa League en milieu de semaine dernière contre Porto. Ce qui me plaît avec, j'ai failli dire ce gamin, parce qu'il a quand même 29 ans, c'est qu'en fait il a un parcours particulier qui n'est plus conforme aux normes qu'on a aujourd'hui où on repère les joueurs, on dit voilà, il doit faire tel club. Undav, il a commencé sa carrière vraiment professionnelle à 23 ans. Évidemment, il n'a aucune sélection chez les U18 allemands, chez les U19 allemands, chez les U20 allemands, chez les U21 allemands. Aujourd'hui, il est international allemand. Il a explosé vraiment en Belgique. Et lorsque tu le vois jouer, tu te dis que c'est ce genre de joueur qui fait un peu partie d'un football un peu à l'ancienne, football de rue, assez massif. Hein, il fait 1m80, mais il a un centre de gravité assez bas. Et il a, pour quelqu'un qui n'est pas un véritable numéro 9, moi j'aime pas trop le voir d'ailleurs en position d'attaquant de pointe, mais un peu plus en position de 9,5, ce qu'il fait beaucoup d'ailleurs à Stuttgart version Sébastien Hoeneß, c'est qu'il a cette capacité en fait à éclairer le jeu, c'est-à-dire c'est un peu ce 9,5, j'ai presque envie de dire Undav, c'est un peu le Platini du pauvre, quoi. Faut être réaliste aussi par rapport au grand Michel. Et c'est quelque chose qui est extraordinaire parce qu'il porte l'équipe en ce moment. Alors le match entre Stuttgart et Leipzig, évidemment, a été très intéressant. Leipzig, on se demande encore qu'ils ont offert en fait la victoire à Stuttgart puisque le dégagement du gardien Van de Voort était dramatique et Undav en a profité. Mais au-delà de ça, quand tu vois les matchs d'Undav, tu sais qu'il y a des éclaircies qui peuvent arriver n'importe quand. Il peut te faire des frappes des 30 mètres, il peut aller te marquer sur coup franc de la tête, il peut te faire un retourné comme il veut. Et je trouve que ça manque un petit peu ce genre de joueur dans le football moderne où, justement, un peu sur quel est son véritable poste, eh ben, tu te dis où tout est un peu sclérosé, les attaquants ils doivent faire ça, les latéraux c'est ça, et ben lui il se balade un petit peu partout. Et je trouve que c'est une formidable forme de vie professionnelle puisqu'on ne l'attendait pas. Et il est arrivé à ce niveau-là, puisqu'il, je pense qu'il verra la Coupe du Monde 2020.
Il y a du monde devant, c'est sûr. Hein. T'as raison. À 22 ans, je regardais, il jouait en D4 allemande encore. À 22 ans, il y a 7 ans, en D4 allemande. Des profils de plus en plus rares. Il y en a encore, mais c'est extrêmement rare. Je donne ces stats quand même, Polo, quand tu nous en as parlé aujourd'hui, c'est 16 buts, 4 passes en boulie, 21 buts, 12 passes, toutes compétitions confondues, Denis Undav.
C'est ça. Et 43. Et donc, il est arrivé juste à 27 ans en Bundesliga, avec un gros transfert. Il était à Brighton. Et à Brighton, il était rarement titulaire. Parce qu'on dit, il a 22 matchs, il a marqué 5 buts, mais il jouait jamais, en fait. Il a que 2-3 titularisations, je parle sous le contrôle de Julien. Donc finalement, ses statistiques, puisqu'on en est là aujourd'hui, sont pas si mal que ça pour quelqu'un qui rentrait, était en bout de banc et rentrait de temps en temps, quoi. Et finalement, il arrive en Bundesliga à 27 ans et il en est à, je sais plus, 43 buts en 79 rencontres de Bundesliga, ce qui est quand même assez extraordinaire pour quelqu'un qui n'est pas un véritable attaquant de pointe. Et t'as bien fait de le noter, ce n'est pas qu'un buteur, c'est aussi un passeur. Et ça fait du bien d'avoir ce genre de joueur sur le terrain. Il a plus qu'un an de contrat, on va voir ce que va faire Stuttgart.
6 sélections, 3 buts avec la Nationalmannschaft, ouais. Tu l'as dit, Brighton, Union Saint-Gilloise aussi, là où il a grandi vraiment. T'as des souvenirs de lui à Brighton ou pas, Julien? Denis Zundav?
Très peu, ouais. Très peu. Après, il y a aussi plein de joueurs qui ont pas réussi dans ce contexte-là et après, pour qui c'était compliqué, pardon, et qui sont allés ailleurs et qui ont très bien réussi, hein. C'est pas.
T'as qui en tête, là, chez toi, par exemple? On peut faire un tour de table, d'ailleurs, hein. Ce genre de profil qui éclot tardivement, là.
Ouais, alors je vais réfléchir un peu si les copains ont. Ouais.
Allez-y les gars, si quelqu'un spontanément un joueur comme ça, on a eu pas mal en France bien sûr, en Ligue 1, des joueurs qui éclotent tardivement. Bon, Valbuena, on est en ambassadeur c'est... bien sûr. Ouais.
Cette saison par exemple, moi j'ai beaucoup aimé Fornals alors que ça n'a pas été un succès en Angleterre.
Ouais, tout à fait. Ouais, il a eu du mal à West Ham un petit peu. Ouais.
Bon. Alors, West Ham c'était pas le même joueur.
Daniele.
Jamie Vardy, je pensais, mais même si c'est pas en Italie, et Luca Toni aussi, il avait eu une carrière où il était pas, il est arrivé très tard. Et Torricelli aussi, pour ceux qui s'en souviennent.
Torricelli, bien sûr, s'en souvient.
La Fiorentina.
Oui.
Tout à fait.
Ouais.
Bon, Iago Aspas peut-être aussi, Edgar peut-être, on peut l'ajouter à ça.
Oh ben bah, Iago Aspas, c'est encore une autre catégorie de joueurs éternels. Iago Aspas, c'est quand même une légende de la Liga. J'ai envie de dire maintenant, j'ai pas pensé à lui en tout cas quand tu m'as parlé de cette catégorie de joueurs.
Bon, voilà les amis. Alors, c'est l'heure de ta minute Edgar, tu gardes la main bien sûr, elle est espagnole. On envoie la musique. Bonne variété espagnole quoi.
Eh oui, escándalo. Scandale, mais j'ai senti qu'il y avait peut-être une petite overdose de reggaeton chez Nico, donc voilà, je vais donner une petite semaine de repos. Non, c'est de la variété espagnole, c'est une chanson de Raphaël, un classique de la chanson espagnole, et cette chanson donc parle d'un scandale, et il y a eu un vrai scandale ce week-end en Liga, un scandale assez inhabituel. On est au Metropolitano à Madrid samedi, l'Atlético mène 1-0 contre Getafe, le ballon n'est pas en jeu, et là, à la 55e, l'arbitre va voir la VAR pour un potentiel carton rouge après, visiblement, une altercation entre le défenseur de Getafe, Abdel Abkar, et l'attaquant colchonero, Alexander Sorloth. Et au ralenti, on se rend compte qu'Abkar passe devant Sorloth et lui touche les parties intimes. Sorloth, forcément, réagit au quart de tour, il le balance au sol. Résultat, carton rouge pour Abkar et carton jaune pour Sorloth. Je vous cite le rapport rarissime de l'arbitre, Abkar a été expulsé pour le motif suivant. Il a pincé la zone génitale d'un joueur adverse. Évidemment, ça fait énormément de bruit en Espagne et Abkar est venu s'expliquer après le match sur Movistar, la télé espagnole qui diffusait. Il dit, lui, qu'il n'a pas fait exprès et il a juré sur toute sa famille et tout ce qu'il aime qu'il ne voulait pas le toucher dans cette
carrément,
zone-là.
Quoi, le mec, c'est il embarque sa famille là-dedans.
Okay. Oui, non mais exactement, l'interview est très, ouais, encore une fois, inhabituel. C'est un cas vraiment rarissime et l'un des rares cas précédents dont les gens se sont souvenus en Espagne, même si les images étaient encore plus dingues à l'époque. C'était Michel qui avait touché les parties intimes de Valderrama en 91 pendant Real Madrid Valladolid. Et lui, il avait eu une amende à l'époque de 500 000 pesetas. Et donc, avec l'inflation, ça vaudrait environ 7 700 euros aujourd'hui. Abkar, lui, il va aussi avoir une sanction sportive, hein, parce que là, il a été sanctionné, il a été exclu directement.
Ça peut être une agression sexuelle aussi, hein, tu sais, c'est possible. Ça.
Aussi, non mais évidemment, si évidemment. Loin, hein. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la VAR a donné la priorité, on va dire, sur le fait de sanctionner le joueur qui avait touché l'autre plutôt que la réaction de Sorloth qui lui a valu un carton jaune mais pas un carton rouge, alors que dans n'importe quelle autre situation ça lui aurait valu un carton rouge, Alexander Sorloth. Donc on va suivre évidemment la sanction qu'il y aura sportive. Est-ce que ça ira plus loin aussi, c'est une possibilité, mais c'est un cas évidemment qui est, voilà, on sait pas comment ça va évoluer parce que c'est très très inhabituel.
Bon, inhabituel, ce genre de scène a offert une des plus grandes photos des plus connues du foot, les amis. Vous voyez de quoi je parle, hein, Vinnie Jones et Paul Gascoigne. Si vous l'avez en tête, hein, bien sûr, Vinnie Jones qui pince la bourse de Paul Gascoigne et Gascoigne qui fait une grimace, quoi.
Et il y a un cas aussi en Italie, en 97, les défenseurs marocains Nick Cruz, il jouait à Bari, il a pris le, comment dire, les boules.
Oh oui. Les bouches. Comment tu dis en italien?
Les palles. De Filippo Inzaghi, parce qu'il a dit, bah, les mecs là, ils marquent avec son genou, avec le bide, avec l'épaule, avec n'importe quoi, je dois les garder en dehors de la surface. Et donc il a fait ça.
J'ai envie de faire un tour d'Europe sur le vocabulaire. Comment on dit en allemand, Polo, les testicules?
Ailleurs. Les œufs, wir brauchen Eier. Des couilles, nous avons besoin de couilles, célèbre phrase d'Oliver Kahn.
Et toi, chez toi, Edgar, on dit comment?
Bon, je pense que vous avez déjà entendu
les couronnes. Ouais, évidemment. Mais il y a un argot parfois. Il y a plusieurs termes pour les signifier. Chez Julien, c'est simple.
C'est le terme argot. Oui. Bah,
Los huevos, c'est toi aussi, on peut dire. Les œufs, quoi.
Oui. Mais non, mais l'argot, justement, quand tu parles de ça, ce serait corones.
Corones. Bon, Julien, toi, rien à mille mots, je pense. Mais les balls, tout simplement. Voilà. Magnifique parenthèse, les gars. Voilà, on l'a faite. 20h25 RMC.
Sublime.
C'est pas une émission d'anatomie, c'est une émission de foot et de société. Reste avec nous dans un instant, la suite avec les drôles de dames. Pourquoi tout le monde déteste Fabregas en Italie? Et puis Edgar nous dira pourquoi Joan Laporta a été réélu à tête du Barça avec un score de dictateur africain. On en parle dans un instant. Reste avec nous, les drôles de dames, à tout de suite.
RMC, 20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamain.
Comme tous les lundis soirs avec les drôles de dames de 20h à 22h. Merci d'être avec nous. Et également le numéro WhatsApp où vous pouvez envoyer vos messages au 0612 424 424, bien sûr. Et sur le chat de la chaîne YouTube de l'After, c'est ouvert. On nous dit que Mayence est à 150 km de Strasbourg, Polo. Voilà. Je sais pas, c'est vrai que c'est un derby. 150 bornes quand même. Ça se fait en voiture tranquillement. Daniele, on n'arrête plus comme. On en parle beaucoup parce que ça devient de plus en plus intéressant. Ça grappille au classement des points, des places. Quatrième victoire consécutive. Après avoir battu la Juve en début de série, c'est la Roma qui est tombée contre les hommes de Cesc Fabregas, 2-1. Comme est désormais seul quatrième de Serie A. Douvicas et Diego Carlos sont les buteurs, l'ancien nantais. Succès de Fabregas qui agace un peu en Italie, Daniele. L'Espagnol ne plaît pas beaucoup. Hein. Explique-nous pourquoi.
Mais parce qu'il a fait une mauvaise blague sur les ballets et l'opéra. Non, je rigole.
Lui, il a été puni, en revanche. Le Timothée Grolot-Chalamet.
Pas d'Oscar pour Fabregas. Il y a plusieurs explications. Alors, moi, je pense qu'il faut commencer pour la plus vrai et réel, c'est-à-dire c'est la nouveauté contre le
conservatisme.
L'ancien monde.
Ouais,
oui, voilà. C'est ça, il est trop jeune, il joue un jeu trop propositif, contre-culturel en Italie, on l'a déjà dit. À chaque fois qu'on parle de com, il faut souligner que c'est une équipe bâtie sur la technique, sur des joueurs comme D'Acuña, voilà, il n'avait pas de carrière juste avant d'aller à com, comme Cacré, qui est un joueur très peculier. Nico Paz, maintenant tout le monde le connaît, il vient de Real Madrid, il avait un peu joué avec Madrid, il avait bien fait, mais c'est Fabregas qui l'a valorisé. Et ils ont beaucoup parié sur des joueurs techniques, qu'en Italie, c'est une rareté. On vise plutôt des chevaux, des joueurs des MMA, quoi. Et il y a déjà ça. Après, il y a d'autres choses. Il y a des raisons que tout le monde, si on écoute ceux qui n'aiment pas comme, ils vont sortir. Alors, déjà, il y a les autres entraîneurs. Dans les dernières semaines, dans un mois, il s'est disputé Fabregas d'abord avec Allegri, parce que vous vous rappelez, il a touché Salemakers pendant que Salemakers contre le Milan, il passait à côté de son banc. Lui, il a eu un geste stupide et instinctif, il s'est excusé d'ailleurs, et il a un peu tiré les maillots de Salemakers. Allegri, il s'est mêlé à tout ça et il a été expulsé même. Mais on a vu qu'est-ce qu'il a dit. Et Allegri, il n'a pas dit un truc très gentil. Il lui a dit, t'es un couillon, en fait. Et t'es un enfant qui vient de commencer à entraîner. Donc voilà, il a vraiment insulté.
C'est un enfant qui vient de commencer à entraîner. Donc une sorte de mépris de l'expérience sur le jeune entraîneur. Quoi. D'accord.
Voilà. Et après, cette semaine, après les matchs contre la Roma, Gasperini, il était énervé parce qu'il disait que les joueurs de com, il faut trop de scènes. La Roma, elle a eu un joueur expulsé pour deux cartons jaunes, Wesley. Et les deuxièmes cartons jaunes, ils n'existaient pas, mais il y a eu peut-être un échange de, parce qu'il y avait un sandwich entre Wesley et Rensch. Les cartons jaunes, peut-être, il fallait le donner à Rensch. L'arbitre, il l'a donné à Wesley. Et Wesley était déjà moni. Donc voilà. Il a pris un carton rouge. Gasperini était énervé. Il n'a pas donné la main à Fabregas. Fabregas, il a d'ailleurs dit, moi, la main, je la donne toujours, même quand j'ai peur. C'est pas ça la manière de se comporter. Et Gasperini, il a dit, moi, j'aime pas leur comportement sur les terrains comme sur les bancs. Donc directement à Fabregas. Donc il y a quelques comportements de Fabregas, quelques rapport avec les autres entraîneurs. Après, il y a la question des coms, qui pour la plupart du public italien est vu comme un projet artificiel, un peu comme Lightspeak. Sauf qu'au lieu des boissons énergétiques, il y a les lacs et une espèce d'idée d'élégance, la mode. Je ne sais pas si vous le savez, mais par exemple, sur les sites de com, il y a les merchandise de l'équipe qui est assez remarquable, parce qu'il y a les maillots, les shorts et tout ça, mais il y a aussi des produits de luxe. Il y a des sweats à 200 balles, des
yaourlis. Oui, d'accord, oui, on veut développer une marque prestige autour du club, quoi, de com, quoi. C'est
oui,
ça.
Oui, tout à fait. Il y a une ligne à Prisky, il y a des maillots de bain à 120 euros premium. Donc, il y a ça. Il y a les acteurs qui vont voir com tous les semaines, qui ne comprennent rien au football.
Donc, ça agace un petit peu ce côté un peu bling-bling, prestige 5 étoiles, quoi.
Totalement. Surtout parce qu'après, il n'y a pas de supporters à côté. Com, c'est une très petite ville. Oui. Même, voilà, elle n'a pas d'histoire dans le football. Donc, ça aussi, ça fait côté artificiel. Après, il y a l'argent. Le fait que la propriété, les Artono, cette famille asiatique de tabac, et les présidents Suarso, qui d'ailleurs, ça, je trouve ça assez drôle parce que Suarso, il a comme claim sur Instagram Living a Made Up Reality. Donc en gros, il renforce l'idée que c'est tout faux, que ça n'existe, c'est pas vrai, c'est juste un spectacle, c'est pas lié à la passion du football. Et voilà, après il y a l'argent justement parce que les com ils ont pas d'entrée en fait, ils gagnent pas beaucoup d'argent. Ils ont fait 5 millions de comment dire des pertes la première année. En Serie A, là, ils vont faire encore plus parce qu'ils ont dépensé beaucoup sur les marchés cet été. Mais ça n'intéresse pas la famille Artono parce que voilà, ils doivent pas, ils sont pas en bourse, donc un peu ils s'en foutent.
Oui, donc on peut s'interroger sur le potentiel développement de ce club, même si tu fais une super saison, si tu goûtes avec des champions. Faut voir comment tu peux arriver à faire grandir le Como sur la durée et en faire une place forte en Italie. Ce que tu dis là, ça semble pas évident, quoi. Si t'as pas de billetterie, un bassin de population réduit, ça va être dur de développer ton club.
Le stade, il fait 12 000 places.
Et donc, oui, bien sûr. Et t'as pas la place forcément pour l'agrandir, quoi. Pas beaucoup de terre.
C'est bien ce que. Vas-y, Polo. C'est bien ce que dit Daniele, parce que, en fait, il faudrait que nos éditeurs comprennent, quand tu as des petits stades, pour ça que moi, en Allemagne, je parle toujours de la puissance, de la capacité des stades et des revenus du ticketing, évidemment. Quand tu t'appelles Com et que t'as un stade de 12 000 places et que t'as les joueurs qu'ils ont, c'est pas compliqué, c'est pas de l'économie réelle. C'est pas de l'économie réelle, c'est pas de l'exploitation, c'est qu'il y a autre chose derrière. Et c'est là où l'UEFA doit travailler pour interdire, entre guillemets, ou ça dépend de comment on peut développer.
Tu veux dire les injections, etc. Un peu artificielles,
mais ouais, complètement quoi, artificielles, ouais. Qui font que. Moi, Com, je rigole. Je te dis honnêtement, quand je vois un stade de 12 000 places, qu'est-ce que tu veux qu'il aille faire en Ligue des Champions? Ça va faire plaisir à qui?
Oui, il pourra pas, forcément, non? Il sera aux normes,
c'est
ou pas?
C'est pas en règle, c'est pas en norme pour le moment. Il y a un projet pour l'agrandir, mais jusqu'à 15 000 places, donc c'est pas énorme. Et oui, il y a la question que si Como il va en Champions League l'année prochaine, il doit jouer ailleurs, pas comment. Et donc il y a ça, il y a le fait que voilà aussi Fabregas, il a commencé à entraîner à Como en deuxième division, il avait pas le permis. Donc il y avait cette chose que de temps en temps ça se passe en Italie où il y avait un faux entraîneur.
Il
n'avait
pas
Roberts.
Le diplôme, tu veux dire? Il avait permis de conduire, il avait pas le diplôme, c'est ça, oui.
Oui, en Italie on a vraiment les permis qu'on peut conduire la voiture.
En France aussi. Ouais, c'est ce qu'on a souvent,
hein,
nous aussi.
Ça arrive souvent, bien sûr. C'est des adjoints qui l'ont et qui sont des prête-noms, quoi, en fait.
Sur combien la amende chez toi, Daniele, par match? Nous, c'est cher, hein, c'est 20 000 euros, 25 000 euros.
25 000 euros chez nous. Après, je crois, les trois premiers mois, il y a un délai comme ça. On a connu ça avec pas mal d'entraîneurs en France. Bon, on parlera aussi, on a déjà parlé cette saison, hein, du capitaine français de Como, Lucas Nacunia, hein, qui a été grand encore. Daniele,
Alors, énorme match. Moi, j'ai un take un peu fort, un peu pas populaire. Moi, je pense qu'en ces moments, si Deschamps devait jouer juger les prestations des joueurs, seulement les prestations, la technique de base, l'influence dans les matchs, comment ils courent, l'état des formes, ben c'est Nacunia et pas Manu Koné.
Ah, d'accord, bon, Nacunia, mais sauf que il n'a pas la carte, hein, il n'a pas le permis, je pense, pour Deschamps, Luca Nacunia. Il n'a jamais été appelé. Il a quand même fait les sélections de jeunes, hein, jusque France moins 19 ans. Mais bon, il y a encore 3 ans, 4 ans, il jouait à Clermont Foot, hein, donc il n'a pas le CV. Cet homme-là, a priori, il était formé à Rennes.
Oui, en plus, c'était un milieu offensif. Là, il est un playmaker, il joue vraiment dans un milieu à deux. Ça serait parfait pour l'équipe nationale.
Bon, mais c'est marrant, c'est toujours un débat. Il faudrait qu'on l'invite d'ailleurs, hein, Luca Nacunia, avec ton réseau énorme autour du lac de Côme, Daniele. Calme ça un soir, quoi. Un local avec nous pour le podcast Acteur Italie. Avec ta mobilette, bien sûr. Ouais. Et tes cheveux au vent. Voilà pour le Como de Fabregas. On se demandera aussi plus tard, dans quelques semaines, si ce club n'est pas trop petit pour son ambition aussi personnelle en tant qu'entraîneur. Juan Laporta a donc été réélu à la présidence du FC Barcelone ce week-end, Edgar. Je plaisantais, hein, avec le score dictateur parce qu'il a été démocratiquement élu par les socios. Il a remporté quasiment 70% des voix devant son opposant Victor Font. 48 000 socios ont voté, Edgar. Rappelle-moi combien il y en a au Barça.
Oui, c'est ça. Sur un peu moins de 115 000. Donc ça fait 42% de participation.
Ah ouais, mais c'est quoi cette abstention? C'est les municipales en France. Voilà. Comment tu l'expliques?
Alors, il n'y a pas le droit. Par exemple, il n'y a pas le de vote par Internet, vote à distance.
C'est un vrai débat.
En fait, d'accord, les mecs, il faut être sur place.
Ouais, c'est un vrai débat.
Voter, quoi. C'est ça.
Non, mais c'est un vrai débat.
Sur place,
ça,
parce que... donc.
On a les mêmes problèmes. Excuse-moi. On a les mêmes problèmes en Allemagne, c'est-à-dire que t'as, par exemple, pour Union Berlin, 70 000 personnes membres d'Union Berlin, et il y a peut-être que 2 000 ou 3 000 votes seulement, et tout simplement parce qu'ils veulent pas. Il y a des gens qui ne veulent pas démocratiser en fait le vote en disant, mais on peut pas contrôler qui vote, etc. Si on fait des votes à l'étranger et ceci et cela, ça pose énormément de problèmes. Et la représentativité ou la représentation en fait des personnes membres des associations est un vrai débat en Allemagne parce que t'as des chiffres énormes et en fait, on se rend compte que ceux qui votent sont extrêmement réduits. En fait, donc c'est parfois c'est que 2-3% de l'ensemble de l'association qui vote.
D'accord.
Et Victor Font d'ailleurs qui a perdu, qui a fait un peu moins de 30%, lui, c'était l'une de ses promesses. Il voulait que le vote électronique à distance puisse être mis en place.
Bon. Alors comment t'expliques une victoire aussi large, parce qu'il a été un petit peu égratigné ces dernières semaines. Bon, par Victor Font bien sûr, hein, qui lui reproche son bilan notamment, sa gestion financière du club, le dépassement des coûts travaux pour le Camp Nou, le délai reporté à chaque fois de l'entrée dans le stade rénové, le cas Xavi aussi qu'il avait attaqué, la polémique Messi qui n'a pas su retenir et qu'il n'a pas voulu, selon Xavi, faire revenir non plus en 2023. Comment t'expliques que 70% de ces socios votants, en tout cas, l'ont plébiscité encore?
C'est vrai que la campagne a été assez particulière. Il a été attaqué de toutes parts, et notamment par Xavi. Ça a été ça la plus grande polémique, la plus grande actualité, on va dire, de cette élection, parce que évidemment Xavi qui dit c'est Laporta seul qui est responsable du non-retour, disons, de Messi en 2023. Forcément, il a dû se défendre. Alors Laporta, il a, on va dire, contre-attaqué en disant oui, mais bon, Xavi avec les mêmes joueurs que Flick, Xavi perdait, Flick gagnait, mais je pense que Laporta a gagné parce que c'est très 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 largement le sportif qui a compté. La victoire de Laporta, c'est la victoire d'Hansi Flick, c'est celle de Rafinha, celle de Yamal, c'est celle de la Masia qui continue d'offrir année après année après année des nouveaux motifs d'espoir pour les supporters du Barça. Et Laporta, il a vu juste surtout sur une chose, sur Hansi Flick, sur le fait de ramener Hansi Flick, et grâce à Hansi Flick, les supporters du Barça, je pense aussi, ont vu le bout du tunnel de pas mal d'années compliquées. On retrouvait l'ambition de se dire on va de nouveau être l'une des meilleures équipes du monde. Et je pense que à la fin, si on simplifie les choses, le socios, qu'est-ce qu'il veut? Il veut voir son équipe gagner au football. Et c'est vrai que en ce moment, le Barça est armé pour gagner au football. Et ça, c'est aussi la réussite de Laporta.
Il est deux fois champion en 5 ans, quoi. C'est ça, en plus, pour le coup, Laporta.
Oui, et surtout aujourd'hui, t'es armé vraiment pour faire peur à tout le monde. Ça veut pas dire que tout est parfait, mais sportivement, t'es armé pour faire peur à tout le monde. Et Flick, c'est évidemment une réussite pour Laporta. Ensuite, t'as le retour au Camp Nou, qui, là encore, je parlais du tunnel, même si le stade n'est pas terminé. Le fait de revenir au Camp Nou, t'as quand même la sensation pour les supporters de se dire ok, tout est en train de revenir en ordre. Et puis ensuite, c'est vrai qu'il y a la situation économique où il a été énormément attaqué. C'est sûr que Victor Font l'a énormément attaqué là-dessus, mais
parce qu'il a vendu aussi les bijoux de famille un petit peu, quoi, les droits télé, beaucoup de partenariats,
Barça Studio,
mais il n'avait pas le choix en réalité, il devait absolument combler, quoi, les dettes.
Voilà, c'était pour combler. C'est vrai qu'il a été attaqué sur ça, mais en fait, je pense qu'il y a des sociaux aussi qui se disaient, en fait, la situation est extrêmement compliquée. Moi, j'ai pas tous les éléments pour tout comprendre. Je préfère avoir le gars qui a déjà le nez dedans entre guillemets que parier sur quelqu'un d'autre. Et donc, mais de manière générale, c'est surtout le sportif qui a primé, parce que j'en parlais tout à l'heure avec un socio du Barça qui justement est allé voter dimanche, et lui, il me disait, mais en fait, la majorité des sociaux qui ont voté peuvent pas avoir la mesure complète et comprendre entièrement toute la complexité de la situation économique aujourd'hui, et surtout tous les tenants et les aboutissants de la situation économique aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est intéressant si tu regardes. Donc on a dit qu'il y avait environ 48 000 personnes qui avaient voté pour les assemblées générales. T'en as un petit peu plus de 4 300 qui peuvent avoir accès à chaque fois à l'assemblée générale, et sur la dernière en 2025, t'en avais un petit peu plus de 500 qui ont voté. Et donc en fait, ça fait 500 sociaux sur 115 000 qui ont voté aux assemblées générales, qui est, on va dire, la démocratie beaucoup peut-être moins médiatisée, mais réelle, et qui passe d'année après année entre les différentes élections. Et donc forcément, sur tous ceux qui ont voté, il y en a beaucoup qui n'ont pas tous les éléments pour vraiment comprendre le côté économique, et donc qui évidemment, et c'est normal, hein, parce que quand même la base du foot, se fie avant tout aux sportifs.
Mais dis-moi rapidement, Edgar, et Paulo peut me répondre également, ces sociaux ça, qui sont pas à Barcelone, qui ne peuvent pas donc voter pour la réélection pour l'élection du président, ils payent une cotisation, bien sûr.
Oui.
D'accord. Donc on leur demande de l'argent, mais en revanche, ils n'ont pas le droit de participer à l'exercice démocratique, en réalité. C'est ça qui se passe.
Ils ont le droit, mais tu dois pouvoir te déplacer le jour J. Mais c'est évidemment, c'est un énorme débat, hein, comme le disait Polo, parce que ça modifie aussi, on va dire, la démographique de tes électeurs, parce que les socios qui viennent de partout, alors que là, ceux qui ont voté, la majorité, pas tous, mais sont du coup les socios vraiment qui habitent à Barcelone. Même si évidemment, il y en a beaucoup aussi qui se sont démenés pour venir, mais c'est forcément plus compliqué.
Bon, voilà pour la réélection donc de Joan Laporta à la tête du Barça. On va faire une pause. Mais d'abord, il y a un match de Ligue 2 ce soir qui vient de commencer entre Annecy et Troyes sous les yeux d'Edouard G. Salut Edouard.
Salut Nico, salut à toute la petite bande et bonsoir à tous. Bienvenue au Parc Municipal des Sports à Annecy. Ça vient de partir pour cette affiche de haut de tableau. Aston Villa, non, hein, parce qu'il y a des joueurs qui... J'avais dans mes petites notes des joueurs de d'Annecy qui sont prêtés par Aston Villa. Non, c'est bien l'Estac qui se déplace ici à Annecy. Estac, leader de Ligue 2, et Annecy qui passe en ce moment ses entretiens d'embauche pour être dans les playoffs après avoir perdu face au Mans. Et avant d'aller à Saint-Etienne samedi, eh bien c'est la réception du leader 3 ce soir. Une minute de jeu, 0-0, et c'est bien Annecy contre 3.
Il va y avoir un bouillant aussi qui a peut-être déjà commencé, Daniele. Cremonese et Fiorentina. Match terrible pour le maintien, 18e face au 17e.
Le match de la peur,
le match de la mort, le match de la relégation. Alors, dans un instant, on va parler de Max Daumann, on va parler de Valverde, 5 buts en 3 matchs avec le Real, d'Aston Villa au programme également, et puis de la Juve, est-elle meilleure sans numéro 9? Restez avec nous, à tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à 22h, Génération After.
Nicolas Jamin.
Avec quatre drôles de dames, Polo, Julien, Edgar, Daniele, ensemble jusqu'à 22h, bien sûr. Toujours 0-0 entre Annecy et 3-0-0 entre la Cremonese et la Fiorentina. On ira voir Edouard G tout à l'heure. Lille a-t-il des raisons d'espérer renverser Aston Villa en crise? Retour 8e de Ligue Europa. C'est jeudi à 21h. Lille battue 1-0 à domicile par les Villans, qui ne gagnent plus en première ligue. Encore battue ce week-end, d'ailleurs, Julien, par Manchester United. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Est-ce qu'il y a des motifs d'espoir? On disait qu'il y en avait avant le match aller, bien sûr, mais que Lille n'a pas su saisir sa chance, quoi. Est-ce que tu penses qu'il est encore temps pour les Lillois de créer l'exploit? C'est un peu fort comme terme, hein, mais de renverser tout ça.
Ouais, complètement. On a d'ailleurs été très critique, très négatif dans l'after de jeudi soir avec
Walid et Daniel, c'est ça.
Flo ou Daniel, voilà, exactement. Sur Genesio, sur le plan de jeu, sur la tactique, on avait expliqué avant le match et pendant la semaine. Je l'ai encore répété après le match. Je comprenais pas comment cette équipe de Lille à domicile avait pu être si neutre face à un adversaire autant dans la difficulté. Dans les semaines qui arrivaient, ils ont fait passer cette équipe d'Aston Villa pour le Barça 2009. Donc à un moment, je sais pas trop ce qu'ils avaient vu dans les vidéos, dans les analyses vidéo d'avant match, mais sincèrement, ils sont à la cave en ce moment. Et s'il y avait bien un moment de les jouer, c'était là. Et pour moi, c'était une occasion complètement ratée. Après, on a eu un auditeur qui, peut-être d'ailleurs, nous écoute encore là maintenant, et qui était tout à fait d'accord avec nous et qui allait dans notre sens. J'ai pas trop compris. Donc, j'imagine que la victoire à Rennes hier, pour Lille en tout cas, va peut-être permettre de redonner un peu confiance et d'avoir cet élan aussi pour aller à Villa Park jeudi, parce que de toute façon, c'est le genre de match qu'il faudra faire aussi. Cette équipe d'Aston Villa, elle est malade. Je sais qu'elle a gagné le match aller, mais ça va pas bien en ce moment. On l'a vu encore à Old Trafford dimanche après-midi, même si la première période avait été assez pauvre des deux côtés d'ailleurs. En seconde période, ils continuent à faire des erreurs à peu près partout sur le terrain qui payent très cash et qui leur coûtent très cher. En transition, ils ont énormément de mal. En transition défensive, je parle, ils ont énormément de mal. Ils ont pas du tout de défense préventive, par exemple, à la perte du ballon, ce qui est assez incroyable à ce niveau-là. Mais on l'a vu sur le but de Cunha, par exemple, pour United dimanche, où c'est Bailey qui attaque et il perd le ballon et en trois passes ça finit au fond des buts de Martinez. Donc il y a encore un coup à jouer pour moi pour Lille, parce que t'as perdu 15-0 finalement, et que sincèrement tu peux aller à Villa Park et leur causer pas mal de problèmes, mais faudra montrer beaucoup plus d'intention de jeu que ce que t'avais montré au match aller, ça c'est sûr.
C'est ça, exactement. Julien, ouais, vas-y Polo.
Excuse-moi Julien, j'ai une question, je t'ai pas entendu là-dessus, enfin, je crois pas. Tu sais qu'en Ligue des Champions et même dans les autres divisions, les résultats des clubs anglais ont pas été bons la semaine dernière, avec je crois 2 nuls.
Une victoire en 9 matchs, hein, c'est ça, je crois.
Ouais, c'est ça, un truc comme ça. Et comment ça a été vécu en Angleterre?
Très bonne question, Polo.
Ouais, des matchs allés. Ouais. C'est parce que moi, ça me semble un super.
Pour l'instant, c'est un peu la politique de l'Autruche, c'est ça qu'on dit?
Oui, c'est ça, exactement. Ouais.
Dans le sens où tout le monde se dit, il y a encore un match retour. Par exemple, il y a 5 des équipes de Ligue des Champions anglaises qui jouent à l'extérieur. Attendons de voir les matchs retour, comment ça va se passer. Mais moi, je suis désolé. Moi, quand je vois Crystal Palace faire 0-0 à domicile contre l'Arnaca, c'est pas possible. Je veux bien que tu sois fatigué, que Glasner pense déjà à la saison prochaine, ses vacances à Disneyland en Floride, c'est tout ce qu'il veut, mais à un moment, t'as pas le droit. Même s'ils sont 14e de première ligue, tu peux pas être Crystal Palace et faire 0-0 à domicile contre l'Arnaca. Et en plus, dans la rencontre, c'était même pas comme s'ils les avaient déchirés, qu'ils auraient dû gagner 5-0 ou 6-0. C'était même pas ça.
Mais Julien, pour prolonger la question de Polo, est-ce que certains osent s'interroger sur le réel niveau de la première ligue, en tout cas? Comment on l'explique ça?
Ouais, bah oui. Non, mais bien sûr, mais moi, je vous le dis, je vais pas répéter pour vous dire j'avais raison, mais ce niveau moyen de la première ligue, il existe depuis le début. On l'a toujours dit. En Angleterre, beaucoup de gens le disent. Alors oui, certains vont essayer de le défendre un petit peu en disant non, mais c'est compétitif. Non, mais entre être compétitif et être de bon niveau, il y a une différence, hein. Tu peux être nul et être compétitif parce que tout le monde bat tout le monde, mais parce que tout le monde est nul. Donc, de toute façon, au final, ce sera la même chose. Ça veut pas dire que c'est un bon niveau quand c'est compétitif. Et c'est exactement le cas. Quand je vois des équipes comme, si Brentford gagne ce soir, ils reviennent à 2 points de Chelsea. Comment c'est possible?
C'est
contre, ouais, Wolverhampton, s'ils jouent ce soir, ouais, là, ça, ouais, dans 5 minutes. C'est incompréhensible. C'est hallucinant.
Je voudrais prolonger parce qu'il y a un truc qui m'intéresse, c'est le coefficient UEFA, parce qu'il y a une guéguerre en ce moment avec l'Espagne et l'Italie pour la deuxième place. Mais je pense, enfin, j'ai pas fait tous les calculs, que si cette semaine c'était un bide pour les clubs anglais, ça n'empêcherait pas les clubs anglais de finir premier au classement UEFA de la saison 2025-2026.
Oui, bien sûr.
Qui montre comment les clubs anglais ont écrasé la saison régulière.
Exactement.
Donc c'est un truc assez paradoxal.
Tu places 6 voilà. clubs anglais en 8e de Ligue des Champions, t'en places toutes les compétitions européennes, t'as cumulé assez de points pour t'assurer la première place au classement UEFA. D'ailleurs, demain, après, je précise. Vas-y Edgar,
le coefficient UEFA, les résultats amènent les résultats, puisque du coup ils ont plus d'équipes, donc même si leurs équipes ont des résultats moyens, ils ont mathématiquement plus de chances d'avoir des victoires, et en plus de ça, ils ont 6 équipes en phase de ligue qui peuvent pas se jouer entre elles, donc mathématiquement ils jouent des équipe moins forte. Donc je veux bien entendre qu'ils ont déjà assez de points, mais il y a quand même un manque d'équité au départ par rapport à ce système-là.
Bon, attention, demain soir, tu peux faire on va dire minimum 1 sur 3, voire 0 sur 3. On verra Arsenal, ouais, Bayer Leverkusen, on en parlera tout à l'heure. Chelsea, PSG, faut renverser tout ça. Et City doit renverser le Real Madrid. Surtout, ouais. Ça commencera demain soir, ce sera sur RMC avec vous les drôles dames. Allez, on fait une pause. D'abord, la minute allemande, celle de Polo. On envoie la musique, Marie-Lou. Il est moderne ce Polo, hein.
Rubber.
C'est récent ça ou c'est vieux
bas,
ça?
Oh bah là c'est très récent ça.
Ah ben bah, bravo.
Ça marche ça. Beaucoup en ce moment. Rubber en haut, en bas. Pourquoi est-ce que je décide ça? C'est parce qu'en ce moment, un petit peu comme l'année dernière, on a une deuxième division allemande qui est assez fantastique. Il y a 5 clubs qui peuvent encore monter. Et ce week-end, on avait un match extraordinaire entre Schalke et Hanovre, deux des gros cylindrés du football allemand et pas que de la seconde division. Dzeko a encore fait une passe décisive. 8 matchs, 6 buts, 4 passes depuis son arrivée. Mais ce qui est extraordinaire, si tu veux, c'est qu'il s'est fait expulser. Schalke menait 2-0. Il devait avoir 5 points d'avance sur le troisième. Donc, prendre une véritable option pour la montée. Et puis, que se passe-t-il à la 80e minute? Penalty pour Hanovre, arrêté par Super Karius qui dégage, c'est un vrai beau penalty arrêté qui dégage en corner en plus. Et sur le corner, il y a un but 2-1 qui méritera tout à l'heure mon débat sur la VAR. Et Hanovre va égaliser à 11 contre 10 à la 98e. Pourquoi est-ce que j'ai voulu parler un petit peu de ça? Parce que je trouvais que j'étais un petit peu trop négatif ces derniers temps sur le football allemand. Et donc voilà, ça fait du bien ce genre de match. 62 000 personnes évidemment au stade. Voilà, Schalke Hanovre 2-2, ça fait du bien.
Ouais. La folie. C'est la minute de Polo, hein. Vous retrouvez son choix musical également sur la playlist After-DDD sur Spotify. Dans la deuxième heure, on va parler, je vous le disais, de Valverde. Quel niveau actuellement, l'efficacité retrouvée? Un grand merci à Arbeloa. On parlera Vinicius aussi, un petit mot quand même. Deux Zerbi en route pour Tottenham, pour l'interrogation. Julien va nous répondre également. On parlera du Milan, notamment de Mayence et de la finaliste Sima, Argentine-Espagne annulé. Edgar nous dira pourquoi. Reste avec nous dans un instant, la deuxième heure, les drôles de dames sur RMC.
RMC.
C'est con, il a tout loupé. Mais non, pas toi, Julien.
Et Nico Paz, il a vraiment fumé comme une cigarette après avoir fait l'amour, si je peux me permettre.
Toujours 0-0 dans cette finale de la Ligue des Champions. Ça va être tiré de la droite vers la grosse.
Mayence qui risque de jouer Strasbourg en quart de finale de d'Europa Conference League. Europa League, ouais, je sais plus. Voilà.
20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamin.
Avec Polo, Julien, Edgar et Daniel Léon ensemble jusqu'à 22h. Vous le savez, tiens, rapidement le direct, c'est Annecy 3. Édouard G, où en est-on?
18 minutes de jeu, pas de but. La plus grosse occasion, elle est pour le leader 3 avec Diawara qui hérite d'un ballon sur une glissade d'un défenseur annécien. Il va pour centrer, mais il s'applique trop. Et finalement, le gardien Florian Escalès, le gardien annécien, a le temps de lire la trajectoire et de se saisir du ballon qui allait vers un collègue de Diawara, mais donc on en reste à 0-0 dans l'ensemble. C'est assez équilibré, mais la grosse occasion, elle est pour l'instant pour les leaders de la Ligue 2, 0-0 donc.
Comment le Real va se présenter face à City, déjà avec ses 3 buts d'avance engrangés à Bernabeu? C'est demain soir bien sûr en Ligue des Champions. Mbappé n'était pas là ce week-end, mon cher Edgar, mais on a retrouvé encore le même buteur, Valverde. 5e but en 3 matchs pour l'Uruguayen, le 2e des 4 buts marqués contre Elche pour la Maison Blanche. Comment tu expliques ce réveil-là? Surtout tactiquement, c'est ça qui nous interroge. Hein. C'était un homme habitué aux tâches de l'ombre. Aujourd'hui, c'est un buteur. Quoi.
C'est ça. Et au-delà même des 3 derniers matchs, c'est décisif lors de 6 des 8 derniers matchs. Donc il y a une vraie régularité. 6 buts, 3 passes. Alors que avant ça, il avait un seul but toute la saison. Donc c'est vraiment un vrai réveil et on retrouve vraiment le Valverde qu'on connaissait, c'est-à-dire celui qui est vraiment un joueur de classe mondiale et là qui passe en plus un cap et qui a un niveau absolument génial. Et Arbeloa l'a dit, je pense qu'aujourd'hui il est à son meilleur niveau. Ce qui est sûr, c'est que dans le jeu, il apporte énormément à cette équipe. Déjà, il leur apporte un équilibre parce que c'est le type de joueur qui fait le travail, même quand c'est pas son travail, c'est pas lui qui devrait le faire. Il compense les petites lacunes des autres. Offensivement, il est très bon parce qu'il va te porter le ballon, il va te remonter le terrain, il va être bon dans la passe. C'est une force de frappe supplémentaire aussi parce que sa qualité de frappe est tellement bonne que quand t'es un défenseur adverse, tu peux pas te permettre de le laisser seul, par exemple devant la surface de réparation, parce que si tu le laisses seul, soit il va avoir une très très belle opportunité de marquer et si tu le marques de près, et bah forcément ça va libérer de l'espace pour les autres attaquants. Donc c'est une solution en plus pour ces attaquants. Au niveau de l'attitude, c'est vraiment un leader. On parle parfois, on critique certains capitaines, lui il a le brassard et lui il montre ce que c'est d'avoir le brassard au niveau de l'attitude, et il tire tout le monde vers le haut. Mais ce qui est le plus important avec Valverde, c'est quand même le fait qu'il apporte, oui, offensivement, mais il apporte aussi défensivement, il apporte, comme je disais, cet équilibre-là, et il compense les erreurs des autres aussi sur le plan défensif. Si on prend par exemple l'exemple du match face à Manchester City, je pense que Trent Alexander-Arnold, c'est pas qu'un verre, hein, qui doit payer à Valverde, parce que face à Doku, il a vécu un enfer, et sans Valverde, Trent, là, il serait déjà dans toutes les compilations de défenseurs qui se font humilier à droite à gauche sur un match, parce que le nombre de fois où il a sorti d'affaire, le nombre de fois où il lui a permis de se retrouver en deux contre un face à Doku plutôt qu'en face à face, comme en tout début de match où on l'a vu en grande difficulté. Voilà, c'est quelqu'un qui va au-delà du strict poste de milieu de terrain, et surtout maintenant qui a été vraiment installé au milieu de terrain. Et ça, c'est une réussite d'Arbeloa. J'avais dit il n'y a pas si longtemps que pour moi, la seule réussite d'Arbeloa, c'était d'avoir libéré Vinicius. Il y en a aussi une autre, voire une dernière, qui est d'avoir lancé pas mal de jeunes, mais il y en a une autre qui est d'avoir vraiment repositionné Valverde au poste de milieu de terrain, parce que sous Xabi, même quand il jouait milieu de terrain, bah, c'était un match par-ci par-là, et donc il n'avait pas le temps d'avoir vraiment cette régularité. Et là, Arbeloa, il s'est dit, ok, je le mets milieu de terrain, même si je connais aussi les lacunes de mes latéraux, et je lui permets d'avoir énormément de liberté et de vraiment s'exprimer comme le joueur qu'il est. Je pense que cette expression, elle est aussi facilitée forcément par l'absence de Bellingham surtout, mais aussi de Kylian Mbappé dans, par exemple, le rôle offensif et les stats qu'il peut avoir en l'absence de Kylian Mbappé. Il aura évidemment pas autant de buts quand aura Kylian Mbappé et Jude Bellingham à ses côtés, mais il est capable de le faire, et chapeau, parce que il est vraiment, vraiment peut-être, hein, en train de changer la saison du Real Madrid, ou en tout cas d'éviter quelques semaines en plus une nouvelle crise au Real Madrid, parce que on n'imaginait pas ce scénario, c'est le moins compliqué.
Et de prolonger l'aventure fragile d'Arbeloa. En tout cas, à la tête du Real Madrid, un ticket quasi acquis, je dis bien quasi, pour les quarts de finale des champions, toujours à 4 points du Barça en Liga. Les gars, un mot quand même sur le but d'Arda Güler. Attends, je rappelle aussi, parenthèse, incroyable, quand même, Daniel.
J'adore.
Vous adorez, j'allais vous poser la question, est-ce que ce genre de but, moitié de terrain adverse, 68 mètres, Arda Güler, d'ailleurs c'est un record égalé en Liga, le dernier c'était Antonio Rossi qui l'avait fait avec Numancia contre Séville en 2004. Est-ce que ça vous fait bondir de votre canapé ou pas, ce genre de but? Oui.
Oui.
Bah, bien sûr.
Moi aussi.
Toi aussi, Polo?
Ouais. Bah, oui, parce que c'est rare.
Parce que c'est rare.
Parce qu'on
s'y attend pas, et que c'est la prise d'initiative.
Ouais, parce que parfois ils le font et ça passe à 10 mètres des buts.
Et on leur en veut pas d'ailleurs, en général.
Mais c'est vrai que quand ça arrive, ça fait du bien, quoi.
Plus qu'un but collectif. Comment tu dis?
Non, mais c'est tellement loin que.
Ah, il est là, il est balle, bien dans sa moitié terrain, hein. 68 ouais. mètres.
Hein. On dirait que la balle.
Il la frappe tellement bien sans élan, c'est incroyable.
Oui.
Mais je pense aussi que.
C'est un ballon flottant.
Ouais, mais on dirait un golfeur qui tape dans la balle, et t'as le temps d'attendre, de la voir en l'air, tu sais pas où elle va aller. Et je pense que la raison aussi pour laquelle on adore ce genre de but, déjà c'est très rare, mais c'est aussi une façon de vivre le but qui est différente en fait, parce que t'as vraiment un temps de, tu dis qu'est-ce qui va se passer, et c'est le genre de sensation que t'as pas habituellement. Donc vu que c'est rare, évidemment c'est génial. Après,
t'étais au stade, Edgar, toi, hein, t'étais au stade, hein, samedi.
Alors figure-toi, c'est le premier match à domicile que je rate depuis que je suis à Madrid.
T'as le sens de l'info, c'est bien, bravo.
Ah mais c'est ça. Bon, après c'était un Real Madrid Elche, donc sur le papier j'ai pas je serai là pour le derby, tu vois. Et, non mais c'est le premier match du Real que je rate à domicile.
Je choisis ces matchs.
J'étais en congé.
Bon, voilà. C'est, en tout cas, c'est un record pour le Real, qui le met donc à 68 mètres. Vous arriverez, vous, sans adversaire, sans gardien, les gars, honnêtement, dans votre carrière, alors, à votre prime,
même du gauche.
Vous auriez été capable ou pas? Ligne médiane.
Je vais me faire mousser. Je l'ai fait quand j'étais en cadet.
Ah, mais c'est un terrain de 50 mètres, ça, en cadet, non?
Exactement, sauf qu'en cadet, on n'a pas la force qu'il y a
normalement. Tout à
fait. Et je l'ai fait, on était mené 1-0, il reste 10 secondes. Je vois l'arbitre Hardves qui sort de son but pour discuter avec des fifilles. et je sais qu'il reste 10 secondes. Il y a le comment ça s'appelle, l'engagement, et je tire directement, et je sais pas par quel choune c'est rentré. Donc voilà.
Moi j'avais 17 ans, j'avais un coéquipier que en fait la première balle de match, il tirait et les gardiens ils l'attendaient pas. On a commencé je pense une dizaine de matchs 1-0 parce que lui il battait, il tirait, les gardiens il était un peu dehors et il a mis 10 buts comme ça. C'était une
magnifique.
Incroyable.
Bon, Julien, toi, tu l'as fait 3-4 fois, j'imagine, les yeux fermés, non?
Peut-être. J'ai déjà tenté, mais sincèrement, je me rappelle pas. Donc, j'ai pas dû réussir parce que je me rappelle pas avoir marqué un but comme ça. Moi, je trouve ça extraordinaire.
C'est une émotion de dingue.
Beckham.
Beckham joue que. En plus, il avait associé la classe dans le geste également. Ouais. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Vraiment le golfeur.
Maillot, tu vois,
c'était le golfeur. C'est ça.
Ouais, exactement. Et puis, lui, il y a vraiment pas d'élan du tout. Lui, c'est un pas, bim. Il était arrêté même.
En croisant la jambe.
Ouais.
Oui. Non, moi je voulais dire, il y a aussi Florenzi contre Barcelona, Roma-Barcelona, et il y a Di Marco qui l'a fait récemment.
Di Marco, j'allais dire aussi. Nous, on avait même fils de paille en Ligue 1, à Lyon, je crois. Il met un but du milieu du terrain. Fekir, on fait ensemble.
Saber Khalifa l'avait fait, ouais. Non, mais ça arrive, c'est rare, mais ça arrive, quoi. Faut du talent. Je sais plus qui a dit ça en Espagne, un ancien joueur. Il faut du talent, de l'audace et un brin de réussite quand même pour le faire, en tout cas, peut-être. En tout cas, ça va y avoir de la maîtrise. Bon, Mbappé et Bellingham seront du déplacement à City demain soir. Ils débuteront pas, Edgar, évidemment, on en parlera.
Bellingham jouera pas.
Il jouera même pas.
Mais il sera là.
Voilà,
il a fait une partie d'entraînement, là, ce soir, mais il jouera pas. Par contre, Mbappé est prêt à jouer. Mbappé est prêt à jouer.
Dis-moi Julien, Guardiola il a accordé un jour de repos, hein. C'est pas la première fois qu'il le fait à ses joueurs en veille de 8e retour de Ligue des Champions.
Ah, c'est assez incroyable quand même.
Il dit c'est pas la première fois que je le fais, donc
après, non, il l'a fait avant Dortmund, là cette saison,
mais après
c'est la deuxième fois, donc c'est que cette saison qu'il avait commencé à le faire. Pour moi j'ai essayé de regarder un petit peu dans les autres clubs, les grands clubs de chez vous, dans vos championnats, j'ai pas pu trouver trace d'un entraîneur à ce niveau-là. Je te parle pas d'un avant un match de Ligue des Champions aussi important que celui de demain, parce que c'est pas une humiliation si tu perds contre le Real Madrid, mais si tu fais encore exploser demain et que tu perds à domicile et que tu prends sur les deux matchs, je sais pas moi, une défaite à 5-2 par exemple, un truc comme ça, c'est hallucinant pour une équipe pareille, quoi, pour Pep Guardiola encore plus, surtout si c'est sa dernière saison à City, ce qui serait sûrement aussi sa dernière saison en club, parce qu'à mon avis après ce sera une sélection et rien d'autre. Donc, bravo à, enfin si ça marche, bravo à lui. Si ça marche pas, je sais pas, moi je suis pas convaincu que ce soit une bonne idée, mais bon, après on verra bien demain. La grande question, c'est est-ce que Haaland, qui est vraiment pas dans la forme de sa vie, c'est vraiment compliqué, on l'a encore vu fantomatique ou alors en manque de réussite, enfin les deux je veux dire, contre West Ham samedi. On a même posé la question à Bernardo Silva cet après-midi en conférence de presse, est-ce que tu serais choqué s'il était sur le banc. Alors pour qu'on arrive à poser des questions sur Haaland potentiellement sur le banc dans un avant un match pareil, c'est pour vous dire à quel point il est pas en forme et ça va pas très bien à City. Donc, voilà, c'est dans ce contexte-là qu'ils abordent le match le plus important de la saison. Il y a celui-là pour voir s'il se qualifie ou pas, et puis après il y aura la finale de la Coupe de la Ligue anglaise dimanche contre Arsenal à Wembley, et puis ensuite le mois prochain le match contre Arsenal qui pourrait décider du titre finalement. Donc c'est le premier match d'une série super importante et pas forcément abordé dans les meilleures conditions.
Bon, demain soir.
Et Julien,
vas-y Edgar.
Non, je vais te demander, parce que ici en Espagne, dès qu'une équipe est menée à l'aller, ce sont les spécialistes pour faire monter la sauce toute la semaine, dès le lendemain, dès les unes du lendemain dans la presse. On parle déjà de la remontada. Je me souviens quand Arsenal avait battu le Real Madrid 3-0 justement en quart l'année dernière. Pendant une semaine, et tout le monde faisait trembler, essayait de faire trembler Arsenal pour dire que le Real allait y arriver, allait faire la remontada. Est-ce que il y a aussi un petit peu ce phénomène-là à Manchester, ou est-ce que on n'y croit pas trop. Ou alors il n'y a pas cette culture-là.
Il n'y a pas la culture du patriotisme entre guillemets. Tu vois, même le journal local de Manchester, par exemple, parce que les journaux nationaux, ils sont pas comme Marca ou AS ou Mundo Deportivo, tout ça, ou voire même peut-être même l'équipe, je sais pas. Mais on n'a pas trop ce côté-là ici. Après, les matchs arrivent tellement vite que finalement t'as pas trop le temps non plus de faire monter un petit peu cette sauce-là et de faire s'enflammer un peu tout le monde, de tout gonfler et tout ça. Pas du tout. Et puis tu sais, les tabloïds cherchent plus la petite bête qu'autre chose finalement. Donc eux, c'est plus, je te dis, Haaland, Guardiola, l'avenir de Guardiola, ce genre de trucs-là, Donnarumma, parce que si vous pensiez que le but de Valverde, le premier de la semaine dernière, et l'erreur de Donnarumma, quand il sait même pas qu'il est dans la surface, qu'il partait le ballon avec le bras, désolé, mon Daniele, mais le but sur corner de West Ham, samedi, c'est une honte absolue. T'as l'impression que Donnarumma, il fait 1m55, et qu'il a du mal à sortir dans les airs, alors que c'est le plus grand, que personne le touche, et il passe au travers total. Mais après, on les avait prévenus, hein, quand il a signé, on leur avait dit.
Préviens des amis parisiens aussi qui regrettent encore le départ de Donnarumma absolument quoi et qui ont tendance à oublier également que au-delà des 5 bons mois qu'il a fait c'est un homme qui ne progresse pas réellement en fait
sur les faiblesses en tout
dans
cas,
ses faiblesses
c'est sûr, hein, jouer au pied conscience de l'espace autour de lui sur les sorties et les sorties aériennes
ce qu'il a fait contre le Real notamment je n'ai pas compris quoi ne pas utiliser sa main alors qu'il est dans la surface de réparation c'est fou
ça ne veut absolument rien dire qu'il enlève son bras parce qu'il pense qu'il est dans la surface c'est ridicule
c'est fou
mais surtout à ce niveau là de ne pas avoir une conscience
de l'espace des zones des limites
je ne comprends pas comment c'est possible à ce niveau là
on va pas refaire ce match là Daniel vas-y.
Les critiques en Italie lui disent que effectivement depuis qu'il a 16 ans, il n'a pas évolué, il n'a pas, amélioré. Il était fort quand il avait 16 ans, il avait tout potentiel, mais voilà, il est resté très fort, peut-être un des meilleurs au monde, mais il a jamais amélioré ses défauts.
Bon. Il y aura c'était Julien concernant la valse des coachs chez toi en tout cas il y a des bancs qui vont se libérer quasiment à tous les étages là on parlait de Guardiola on va attendre rester patient encore une fois est-ce qu'il fera la dernière saison de son contrat la saison prochaine à Liverpool Arne Slot rien n'est moins sûr également
c'est très chaud
pour la saison prochaine à Tottenham n'en parlons même pas Igor Tudor il aurait pu sauter ce week-end presque hein, si Richarlison n'avait pas égalisé à la 90e et on parle chez toi, dis-nous en plus, ça a commencé à en parler dans l'after ce dimanche soir, de Roberto De Zerbi, qui est une possibilité pour Tottenham. On parle de cette saison, j'imagine, déjà.
Ouais, alors cette saison, visiblement, il serait pas trop chaud de venir maintenant. Il a tout à fait raison. Hein. Laisse la galère à quelqu'un d'autre. S'il descend dans le Championship, tu viendras pas de toute façon, c'est pas grave. S'il reste en Première Ligue, c'est bien. T'arrives et t'as tout l'été pour travailler, mettre en place toutes tes idées, tout ton plan, toute ta méthode, tout ce que tu veux. Là, c'est un plan galère grave et Tudor est en train de le voir de lui-même. Alors même si Tudor, c'est pas De Zerbi, c'est pas un super grand entraîneur, mais tu vois à quel point il galère quand même, ne serait-ce que pour faire de cette équipe une équipe, même s'il a beaucoup de blessés et tout ça, tu te dis pour De Zerbi ou pour n'importe qui, venez pas maintenant. En revanche, le problème pour Tottenham, c'est que si effectivement il décide de se séparer de Tudor maintenant là ou très vite, c'est une des questions. Ils sont en train de chercher qui pourrait venir après déjà au cas où. Bon courage pour aller chercher quelqu'un d'autre après quoi. Là pour finir la saison. Avec les matchs qui arrivent en plus, le week-end prochain par exemple, ils ont un match à 6 points contre Nottingham Forest qui pourrait être très bien décidé de ce qui va se passer après et pour Tudor et pour la suite et la relégation possible ou le maintien. Donc c'est très chaud. Au moins ils ont montré un petit peu ce fighting spirit là contre une équipe de Liverpool tellement décevante dimanche, mais tellement décevante avec les joueurs qu'ils ont, de jouer comme ça, de donner les clés à un gamin de 17 ans, Rio Ngumoa, sur son côté gauche parce qu'il y avait que lui de toute façon qui pouvait faire quelque chose. C'était catastrophique. Alors pour que Tottenham vienne marquer en plus et avoir même quasiment les meilleures occasions sur les 90 minutes, c'est pour vous montrer à quel point le niveau de Liverpool était laissé à désirer sur ce match là. Donc je sais pas ce qui va se passer contre Galatasaray mercredi, mais c'est encore une fois, hein, c'est une autre équipe qui joue pas bien, un autre entraîneur qui est énormément sous pression et tu sais pas comment la fin de saison va tourner pour Liverpool et pour Arne Slot. Mais pour De Zerbi, il y a beaucoup de gens en Angleterre qui aimeraient beaucoup qu'ils reviennent. C'est marrant, hein, comme quoi des fois tu laisses des impressions alors qu'à Brighton il y a eu une très bonne saison et une autre saison beaucoup plus moyenne avec à la fin des fights et des clashs et des embrouilles parce que de toute façon c'est De Zerbi, il est comme ça et ça changera jamais. Et pourtant, même du côté de Tottenham, et au club, et chez les supporters, et même parmi les joueurs, en tout cas ceux auxquels je parle, qui seraient plutôt contents, enfin qui sont assez chauds pour que De Zerbi arrive, quoi. Donc c'est bien. Et puis moi, de toute façon, pour moi, c'est un très grand entraîneur, même si ça réussit pas tout le temps. Donc je serais très content.
Un très grand entraîneur.
Ouais, je pense.
Ouais, d'accord. Ok. Bon. Eux, ils fantasment d'un retour un jour de Pochettino, de Poch, comme ils disent. Qu'il est embarqué avec la sélection américaine. Faudrait voir après c'est la Coupe du Monde comment ça se passe, quoi.
C'est ça, en fait. Et le seul petit truc pour finir sur Poch qui gêne un petit peu au club, c'est que effectivement, si les Américains vont, on va dire, je sais pas moi, jusque en huitième de finale ou en quart de finale même, et qu'il est pas libre avant le 5 juillet par exemple, t'as déjà entamé un petit peu ta préparation, il aura pas eu le temps vraiment de travailler non plus sur la saison qui arrive puisqu'il sera focalisé sur les États-Unis, c'est tout à fait normal, alors que De Zerbi, il peut arriver après ses vacances, il est frais, il est reposé, il commence à travailler dès maintenant, enfin voilà, il y a tout ce contexte là.
C'est l'heure de la minute italienne. On envoie la musique.
Si vous l'aimez, on peut l'écouter tout entière, elle n'est pas très longue. Alors, en fait, elle s'appelle Un coup de tous, Colpo di Tosse. C'est un chanteur que je connais personnellement, en plus, c'est un des plus aimés en Italie, il est très jeune. Il s'appelle I Cani, c'est-à-dire les chiens, mais tout attaché au pluriel. Et en fait, lui, il chante tout ce qu'il faut, c'est un éclair de génie en quatre mots, un coup de tête au ralenti. Et les coups de tête dont il parle. Dont je veux faire référence moi, c'est celui de Matteo Pellegrino, attaquant de Parme, que ce week-end, Parme, ils ont perdu 4-1 contre Torino, mais Pellegrino, il a marqué son 14e but depuis son arrivée en Italie il y a un an, dans les marchés de janvier, et de ces 14 buts, 10, il les a marqués avec la tête. Et la chose étrange, c'est qu'en Argentine, avant, il avait marqué qu'un seul but avec la tête. Il est le fils de Mauricio Pellegrino, ancien joueur de Barcelone, Valencia, Liverpool. Il était assistant aussi de Benitez, quand Benitez il est à l'Inter. Il était à l'Inter et c'est un grand garçon qui a grandi en regardant les défenseurs centraux comme son père. Et c'est grâce à ça qu'il a appris et commencé à se battre avec eux. En fait, Parma, on en a déjà parlé, c'est une équipe qui joue presque au rugby. Il lui passe la balle qui avec la tête. Moi, je comprends pas si ce joueur-là, il est capable avec les pieds parce qu'il touche trop peu de ballons avec les pieds. Mais en tout cas, avec la tête, il est très, très fort. Alors, on va voir parce que c'est un football qui va même en Angleterre, même un peu partout, de plus en plus vers des coups de pied arrêtés, des coups de tête et tout. Donc, ça se trouve, il va même jouer dans des grosses équipes dans le futur parce qu'il est vraiment très fort avec la tête.
Les gars, débat flash, plus grand joueur de la tête de l'histoire pour vous, qui vous vient spontanément?
Birov.
Oliver Birov.
Ouais, non, Birov, il n'est pas dans le top 10 allemand.
Horst Rubesch. Horst Rubesch, ok. On a quoi de la tête.
Miroslav Klose.
Klose, le timing parfait.
Alors, moi, j'ai pensé
à Yann Kohler était très fort aussi de la tête, je me rappelle.
Oui.
CR7, très fort, tu l'as dit, Edgar, bien sûr, timing. Julien, t'as rien chez toi en Angleterre de la tête?
Pelé.
Si, on a eu des très bons joueurs. Mais moi, ce que j'aime, c'est des mecs comme Ivan Cordoba, des petits qui sont forts, quoi. Même Joao Neves, le timing comme ça, Zamorano.
Jean de
Zamorano de voir sauter comme ça, c'est beau, hein.
Petit format qui ont un super timing. Voilà pour la minute de Daniele. Dans un instant, on va parler d'une polémique arbitrale en Allemagne lors du Bayer Leverkusen. FC Bayern reste avec nous. Et puis à venir également la Juve. Je vous le disais tout à l'heure, était le meilleur sans neuf, était le meilleur sans Jonathan David et Openda. Daniele va nous en parler. La Ligue de l'eau direct, Annecy 3, Edouard G.
Il reste 7 minutes, toujours 0-0, avec pour l'instant la meilleure occasion, c'était sur un coup de pied arrêté. C'était pour Annecy, un coup franc de Bingmaz du gauche, mais le gardien troyen s'est bien interposé dans cette balle qui au final était facile. C'est assez équilibré et c'est même très équilibré au tableau d'affichage. 0-0 à 7 minutes de la fin de la première mi-temps.
Moi j'avais Lilian Lastand comme un des plus grands buteurs de la tête de l'histoire du football. Reste avec nous dans un instant la suite avec les drôles de dames sur RMC.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Jamain.
Avec Edgar, Julien, Polo et Daniele, on est ensemble jusqu'à 22h. L'After prend le relais comme tous les soirs, vous le savez, jusqu'à minuit sur RMC. Alors, le direct, c'est également un match de Ligue 2 entre Annecy et Troyes. Il y a un but, Edouard G.
Exactement, un but d'Annecy. Un but, vous parliez des buts de la tête. Eh bien, un magnifique but d'Annecy sur une action totalement fluide avec un ballon pour Julien Coadio sur le côté gauche. Il centre et au milieu de la défense, il est tout seul, Moïse Saïdion, qui de la tête va tromper le gardien troyen. Ça fait donc 1-0 dans un moment fort pour Annecy qui va peut-être doubler la mise avec ce déboulé là-bas de Yilmaz, mais le ballon est contré, ça va rebondir sur la transversale, contré par un Troyen, ça va aller en corner. Donc Annecy qui mène 1-0 juste avant la mi-temps, ce but à la 43e minute, et c'est assez logique sur le dernier quart d'heure, tant les hommes de Laurent Guyot, pour l'instant, sont meilleurs sur le terrain. 1-0 donc, but de Moïse Saïdion face au leader Troyen, 1-0 donc.
Alors évidemment qu'on pose ce genre de questions, quels sont les meilleurs buteurs de l'histoire de la tête? Ça tombe sur les réseaux. Hein,
on nous parle. Aussi, hein,
Cristiano, on l'a dit. Julien, si vous avez écouté, on l'a dit deux fois, Edgar et moi. Sergio Ramos, Olivier Giroud, Luca Toni.
Ouais.
T'es pas convaincu, Polo, Luca Toni. David Trezeguet, tu prends un David Trezeguet ou pas?
Luc de Jong.
Ah, Luc de Jong, bah, c'est ça surtout.
Ouais. Il n'était pas très fort avec la tête, Toni. Hein.
Qui?
Toni, il était grand, il était balèze, mais il n'était pas fort avec la tête.
D'accord.
Djuric, Ibrahimovic.
Ouais, dans des styles différents, effectivement, quoi, tout en puissance aussi. Sans forcément sauter.
Et là, Casemiro, hein.
Cavani, bien sûr.
Une saison dans les airs. Incroyable.
Ah oui, tout à fait. Énorme. Ah, Edinson,
Cavani, non? Et Cavani, non?
Bien sûr, Cavani.
Et peut-être les meilleurs en ce moment. Les meilleurs en ce moment, c'est les Pirates Mouriki, en Liga.
Mais tous dans des styles différents, c'est marrant, hein. C'est un vrai sujet, quoi. T'as le camp qui coupe les trajectoires à la Cavani, t'as celui qui, en toute impuissance, sans sauter, marque de la tête. Mbappé, qu'est-ce que tu racontes? Tu auras des problèmes, toi. Tu viens à Madrid, on te le rappelle. Hein. Rappelle-toi où tu es. Bon, Polo, le nul, Bayer Leverkusen, FC Bayern, un partout. Les Bavarois ont fini à 9. Nico Jackson, Luis Diaz exclu. Star du match, l'arbitre. Et grosse polémique chez toi.
Alors, grosse polémique parce qu'on a eu ce week-end à nouveau. J'en avais parlé il y a quelques semaines aussi, où il y avait eu un ras-le-bol global et de frustration de l'ensemble de la corporation du football par rapport à cette technologie. Je vais vous donner deux exemples qui me semblent aussi importants qui se sont passés. Je vous ai parlé du match entre Schalke et Hanovre, ce qui est extraordinaire. Pour le 2-1, on a évidemment regardé les images pour vous montrer l'absurdité du système. C'est qu'il y a un duel entre un défenseur et l'attaquant, évidemment, et le défenseur se retrouve à l'horizontale, mais la jambe tendue. Et le fait qu'il ait la jambe tendue fait que l'attaquant adverse d'Hanovre n'est pas hors-jeu. S'il avait le genou replié, il serait hors-jeu. Il y a eu encore à Francfort, lors du match Francfort entre Heidenheim, ce que moi j'appelle le hors-jeu du roseau. C'est-à-dire que tu as Conte qui est au duel avec son défenseur et qui est comme si un roseau, il y avait du vent, était plié, il est derrière son défenseur, mais il a tout son corps qui passe devant. Or, en fait, on se rend compte que et donc, c'est d'une débilité parce que cette technologie ne prend pas en compte la cinétique, les mouvements, etc. Bon, il s'est passé cette rencontre complètement folle entre Leverkusen et le Bayern. Je rappelle quand même que Leverkusen n'est pas dans les petits papiers des arbitres en ce moment. Je fais référence, évidemment, à ce qui s'est passé lors du match aller contre Arsenal, qui est quand même une escroquerie. Donc, je pense que Julien arbitrera
toujours
aussi le match.
Une semaine après, hein. C'est fou.
Ben non, mais c'est... En plus, tu vois les images.
Alors que la VAR, c'est dingue.
Il y a rien. Et en fait, c'est ça. Et là, il y a eu un ras-le-bol à nouveau global de l'ensemble de la corporation. J'ai adoré ce qu'a dit pour une fois Didier Hamann, l'ancien joueur de Liverpool notamment et du Bayern, qui dit avec cette technologie, nous n'avons rien gagné, mais nous avons tout perdu parce que il n'y a que de la frustration en fait. Et cette histoire de la frustration, elle est évidemment chez les joueurs qui ne comprennent pas et qui en rigolent. Ils peuvent même pas forcément s'exprimer parce qu'au bout d'un moment,
moi, j'entends pas les joueurs s'en plaindre réellement en tout cas. Il n'y a pas, tu veux, de lever de bouclier.
Si, il y a beaucoup de joueurs en Allemagne, en tout cas, qui se plaignent. Il y a évidemment les coachs qui se plaignent. Il y a les dirigeants qui se plaignent. Où Lyonnais a encore fait une sortie, évidemment, en disant qu'il avait jamais vu une prestation arbitrale de ce niveau-là. Et même le journal Kicker, qui est loin d'être un journal progressiste, plutôt très conservateur, a écrit que l'abolition de l'assistance vidéo serait un impératif de raison et de justice. C'est quand même assez intéressant, je trouve, de voir que, au-delà de l'idéologie qui est là derrière, c'est-à-dire sans être un ludiste de comment ça s'appelle, donc ça je fais référence à la révolution industrielle évidemment au XVIIIe siècle en Angleterre, sans être contre la technologie, c'est que tout ce qu'on nous a vendu comme la vérité absolue etc ne fonctionne pas et qu'aujourd'hui on est dans un bordel monstre, excusez-moi d'être vulgaire, pour comprendre ce qui s'est passé. Mais encore pire, l'arbitre du match Leverkusen contre le Bayern a reconnu que Luis Diaz n'aurait pas dû être expulsé. Je pense d'ailleurs qu'il y a débat à ce niveau-là parce qu'il y a simulation avec la jambe de Luis Diaz qui va chercher le corps du gardien. Mais il dit non, j'ai fait une erreur. Donc que fait le Bayern? Il dépose réclamation en disant ce serait sympa quand même que vous, puisque l'arbitre a reconnu son erreur, ce serait sympa que Luis Diaz ne soit pas suspendu pour la prochaine rencontre. Que fait la Fédération allemande de football? Elle dit ce n'est pas un argument suffisant pour enlever la suspension du joueur. Donc je voudrais dire à quel moment tu as le droit d'être dans ton droit et de dire mais c'est n'importe quoi ce qui se passe. À quel moment on est dans une logique où même l'arbitre reconnaît que c'est une erreur, j'ai envie de dire manifeste, hein, pour reprendre l'expression qu'on a utilisée en Allemagne par rapport à Arsenal, et que les organisations se disent les associations responsables de l'arbitrage se disent mais on a quand même un vrai problème, va falloir qu'on repose tout sur la table parce que ce n'est pas possible d'avoir ce
mais
genre
tu
de
choses. Tu sais que la communauté des antivars grossit année après année, mois après mois également. Je ne sais pas jusqu'où ça peut aller. Peut-être quelques réglages à adopter, mais la VAR est là et on va devoir vivre avec elle malheureusement.
Moi, j'ai toujours dit une chose, au-delà de la technologie, au-delà du sportif, j'ai toujours dit que la VAR, il y avait un problème idéologique derrière parce que la vérité absolue est contre le peuple. Les hommes politiques, y compris les joueurs de football, n'ont jamais peur du peuple. Ils ont peur de la foule. Avec la VAR, on t'a vendu une technologie de rêve, une technologie de la vérité absolue qui disait au peuple dans les tribunes, ferme ta gueule parce que nous, on a raison, regarde la technologie. Or, en fait, qu'est-ce qu'on se rend compte des années après maintenant? C'est que c'est du pipeau. Et je pense que quand tu vois comment ça réagit dans les tribunes allemandes, quand tu vois comment les dirigeants, c'est pas n'importe quel, c'est les mecs qui gèrent des millions de... Tu vois, j'ai même pas parlé pognon, mais le match nul contre Arsenal, ça coûte je ne sais combien de millions par la prime de non-victoire face à Arsenal. C'est un truc tout con, hein, mais ça coûte un paquet de pognon. Mais toutes ces choses-là font que je ne sais pas où on va, je ne sais pas ce qu'on veut nous proposer comme football, je ne sais pas ce qu'ils veulent pour le 21e siècle en tout cas, mais il y a quand même beaucoup de choses à discuter parce que ce n'est pas possible que semaine après semaine il n'y ait aucune amélioration possible.
Voilà pour le dossier VAR. Polo, juste un mot rapidement avant qu'on parle de la Juve avec Danielé sur le gardien, le dossier du gardien de la Juve. Les quatre premiers gardiens du club, dont le titulaire de l'équipe réserve, sont blessés.
Ouais, alors attention. Dis-moi. Attention, parce qu'il semblerait que Urbich pourrait peut-être revenir pour le match retour. C'est pas sûr et certain, mais mercredi sinon, soir. Va avoir un gardien de 16 ans dans les buts. Donc ça va être compliqué quand même.
Heureusement, t'en as mis 6 à l'aller, quoi. C'est ça.
Bah, c'est ça. En fait, c'est ça, parce que ça fait partie de ces petites choses. C'est extraordinaire, parce que Ulreich, qui est le gardien numéro 3 aujourd'hui, ancien international allemand, et qui évidemment vit des jours paisibles, et ça entraîne un petit peu tout le monde, il a fait un match extraordinaire, et ce couillon, il a trouvé le moyen de se blesser. Après la rencontre, donc, voilà, c'est comme ça que ça arrive.
Donc, c'est une bonne nouvelle pour la remontada de l'Atalanta.
Oui, l'Atalanta peut y croire désormais, effectivement. Quoi.
Bah oui, c'est
un gamin de 16 ans. Déjà, faut s'approcher du but, hein, Danielé, avec l'Atalanta. C'est pas évident,
on peut faire comme Arda Güler.
Oui, bien sûr. Voilà. Oui, tout à fait. Danielé, la Juve est-elle encore meilleure sans neuf? La question se pose encore un peu plus, hein, après la victoire sur le terrain d'Udine. Jonathan David, Openda, ne débute pas et tout se passe bien. On t'avait prévenu, Danielé, Openda, Jonathan David, c'est même pas du chapeau 4 européen, je pense, sur attaquant, quoi. On n'est pas surpris de pas les voir forcément s'affirmer en Serie A.
Il fallait le dire à Comoyi, pas à moi, parce qu'en plus cette semaine ils ont même payé Openda, c'est-à-dire c'est devenu obligatoire le rachat d'Openda pour je pense une quarantaine de millions. Donc oui, et Openda c'est vraiment des deux, à la limite David quelque chose il a montré, Openda vraiment franchement je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire aujourd'hui. Ils ont parlé de peut-être le prêter à Lens. Openda, David peut-être l'envoyer à Marseille, on ne sait pas, mais en tout cas je pense que c'est pas dans les plans futurs de Spalletti qui demandait un numéro 9 dans les marchés de janvier. Il y a eu beaucoup de comment dire des mots versés dans les journaux de là-dessous, mais finalement personne n'est arrivé. Et Spalletti il a dit bon, si vous me prenez pas l'attaquant que je vous ai demandé, bon, je vais l'inventer. Il a commencé à faire jouer McKenny, peut-être vous souvenez. Après il y a eu Ildiz qui a joué un vrai neuf, pas vraiment faux numéro 9 parce qu'il venait pas très vers le milieu, mais il faisait aussi des appels en profondeur. Et Ildiz il peut jouer très bien dans les centres, même moi je pense que comme numéro 10 avec un numéro 9 derrière, ça serait encore mieux. Mais il a trouvé une autre solution contre l'Udinese qui finalement c'était encore mieux, c'est-à-dire il a inversé les positions de Boga et de Ildiz. Boga de la gauche il est parti, il allait jouer numéro 9 et Ildiz allait retourner à gauche. Deux minutes après, il dit, il prend la balle, il dribble sur le côté gauche et il met une balle parfaite pour Boga, qui d'ailleurs il fait un bel appel aux profondeurs derrière les défenseurs. Donc ils ont bien fait les deux, ils se sont bien trouvés. Boga maintenant il dit c'est un honneur jouer avec Ildiz. Ildiz il est dans un grand moment de forme, c'est les meilleurs joueurs du championnat moi je pense. Donc voilà, Spalletti il trouve toujours des solutions, il fait toujours des choses, il est toujours pour les changements, pour la nouveauté. Voilà, lui c'est pas un de ceux qui trouve Fabregas antipathique, même c'est un peu de la même catégorie de Fabregas. Et voilà, donc c'est très bien pour la Juventus qui, en ce moment, elle est juste un point derrière Com. Et voilà, on n'y croit pas trop que comme ils vont arriver quatrième pour aller en Champions League. Donc c'est plutôt la Juventus en ce moment en Italie qu'on pense qu'elle va se qualifier pour la Champions League.
Bon, et pour l'instant, dans le match de la muerte entre Cremonese ouais. et la Fiorentina, 2-0 pour la Fiorentina à la mi-temps, qui ouais. larguerait un peu la Cremonese premier relégable. Côté italien, on nous parle de Boga également sur le chat. Hein. Si tu m'avais dit qu'il signerait à la Juve et qu'en plus il serait bon à la Juve, Boga, je t'aurais pas cru, mon cher Daniele. On en reparlera. La troisième, quatrième minute de la soirée, celle de Julien Laurence, elle est anglaise. On envoie la musique, Marilou. Ça, c'est début de soirée, boîte londonienne. Julien Laurence c'est arrive, hein. tranquille avec ses potes.
Attends, j'attendais que le début, que le beat reparte après pour parler, mais... C'est maintenant là. Rudimental, Feel the Love. Pour parler d'un joueur qu'on a parfois critiqué par le passé, Bruno Fernandes, et qui, je pense, maintenant ça doit être sa 7e ou 8e saison, je crois, United commence à mettre tout le monde d'accord. Et c'est tout à fait normal quand vous regardez le match d'hier encore, où il y a vraiment peu de qualité, surtout en première période. Il n'y a que lui en fait sur le terrain qui apporte vraiment de la qualité. Deux passes décisives de plus hier, un corner pour la tête de Casemiro. Bon, jusque-là, ça peut arriver. Un ballon en profondeur magnifique en première intention pour Cunha, peut-être un petit peu moins. Tous les ballons qu'il a donné hier en première intention, une touche, deux touches de balle en profondeur, à droite, à gauche, dans l'axe, partout. C'est un régal. Hein. De toute façon, la façon dont il voit le jeu, il anticipe tout et il sait tout avant tout le monde, voit tout, prend l'information et tout ça, c'est juste exceptionnel. Et pourquoi donc? Pourquoi un spécial Bruno là maintenant pour cette minute? Parce que avec 16 passes décisives déjà cette saison, il a battu le record de David Beckham. Pour un joueur de Manchester United qui a réussi le plus de passes décisives en Première Ligue sur une saison entière, c'était 15 donc pour Beckham, il en est à 16. Il se rapproche aussi puisqu'il reste 8 matchs maintenant du record de Thierry Henry, de Cesc Fabregas, de Kevin De Bruyne de 20 passes décisives sur une saison de Première Ligue. Donc il en est qu'à 4, il a peut-être le temps même de les passer, mais c'est aussi, je crois que c'était arrêté à 18 ou 19. Fabregas et Eden Hazard aussi avaient été pas mal, mais de dépasser le nombre de 20 fatidiques, ce serait assez incroyable pour lui. Le troisième joueur de l'histoire de Manchester United à avoir plus de 100 buts et de 100 passes décisives maintenant, avec Rooney et Giggs, il en est à 105 buts et 100 passes décisives, toutes compétitions confondues. Voilà, moi je trouve que c'est un joueur fantastique. Je peux comprendre qu'à un moment il y a eu débat sur est-ce qu'il était fort, notamment dans les gros matchs, est-ce que c'était un joueur de petits matchs entre guillemets ou pas. Aujourd'hui, sincèrement, c'est un régal de voir jouer Bruno Fernandes. Si vous avez un jour l'occasion d'aller au stade, parce qu'à la télé, on voit pas bien, mais au stade, c'est vraiment, vraiment un joueur spécial. Et donc, je trouvais qu'il méritait cette minute ce soir avec cette chanson, donc Rudimental, Feel the Love.
Il faudrait qu'on parle également de l'avenir de Michael Carrick. On aura le temps, bien sûr. Il y a un vrai doute sur son maintien à la tête de United pour la saison prochaine. Voilà pour la minute de Julien. Dans un instant, tiens, on va parler de Mayence avec Polo, de Max Daumann avec Julien, pépite d'Arsenal, bien sûr, qui confirme toutes les promesses vues en lui, notamment par son coach Mikel Arteta. Reste avec nous dans un instant, la suite avec les Drôles de Dames sur RMC.
RMC, 20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamin.
Daniele, Polo, Edgar et Julien sont là. Dernier quart d'heure des Drôles de Dames sur RMC avant de passer la main à l'After, bien sûr. C'est la mi-temps entre le Cremonese et Fiorentina 2-0. C'est la mi-temps également entre l'Annecy et 3. 1-0 pour Annecy. Alors messieurs, on parlait tout à l'heure de passeur décisif. Hein, un mot quand même sur Michael Olise, Polo, en Canada 17 hein, cette saison, Bundesliga. 17e ouais. ce week-end pour lui. Je sais pas où est le record du meilleur passeur dans le championnat allemand, mais il doit pas être très très loin, notre ami.
Ouais, mais enfin au-delà de Olise, c'est le triple, c'est le trio.
Ouais, Luis Diaz, Olise,
Harry Kane, Olise. Enfin, même si Harry Kane ne jouait pas parce que Jackson a été, parce qu'il était blessé sur le banc et que Jackson a été logiquement lui expulsé parce qu'il prend bien la cheville de Terrier. Moi, c'est le trio de devant, quoi. C'est assez impressionnant, quoi.
Polo, dans quelle Coupe d'Europe joue Mayence cette saison?
La C4.
C'est plus simple. La Conférence League. Mayence, autre club de Bouli, donc qualifié pour les huitièmes de finale. Potentiel Strasbourg en quart de finale, donc. 0-0 contre le Sigma Olomouc. Retour jeudi. On ne sait pas trop où va Mayence. Toujours en lutte pour le maintien. Victoire ce week-end. Mais son coach suisse, ancien de l'Union Berlin, Urs Fischer, fait du bon travail.
Il était arrivé un petit peu comme pompier. On avait beaucoup critiqué Mayence lors de la première partie de saison parce que c'est un club extrêmement énergivore à l'époque avec Bo Henriksen et jouait tous les trois jours, évidemment, sans faire de véritables recrues et en ayant perdu notamment Burkhardt ou Cassie, hein, le français qui était blessé, qui est toujours blessé d'ailleurs et qui n'a pas joué. Fait que, si tu veux, on avait une équipe plus faible que l'année dernière qui devait jouer tous les trois jours et physiquement, ils ont explosé complètement. Et Urs Fischer est arrivé, il fait les méthodes qu'il avait utilisées à l'Union Berlin, c'est-à-dire c'est un style de jeu assez minimaliste. Ils ne veulent pas concurrencer leurs adversaires d'un point de vue technique en voulant par exemple systématiquement avoir le ballon. Par contre, pour la défense sans ballon, c'est un véritable modèle. Il a à nouveau mis son schéma de jeu préférentiel, le 3-3-2-2 qui commence à faire différents émules en Allemagne justement, c'est-à-dire qu'un dos où le poste de numéro 6, Sano notamment, l'international japonais qu'on verra à la Coupe du Monde, est assez exceptionnel à ce niveau-là. Et il réussit petit à petit à reprendre les points, à ne pas perdre en 16 rencontres compte toute compétition confondue, il n'y a que deux défaites, et ces deux défaites sont en Bundesliga, mais ils avaient pris le club dernier du classement, il est en train de passer au-dessus, ils vont peut-être avoir une petite chance en C4 justement d'aller en quart de finale puisqu'ils jouent à domicile après le 0-0 match pourri où justement ils ne visaient que le 0-0 typique de Urs Fischer. Ils ont juste quelques petits défauts, ils n'ont toujours pas leur gardien numéro 1, c'est Batz qui j'aime bien, qui au départ était un numéro 3 et pour moi il est presque numéro 1. Amiri est toujours blessé.
C'est le gardien, c'est ça?
Ouais, B-A-T-Z, Batz. C'est pas Joël. Mais oui. Amiri, évidemment, le meneur de jeu est aussi blessé. Mais tu vois que l'équipe a complètement réagi et que les fondations des schémas tactiques mis en place par Urs Fischer fonctionnent toujours. Et c'est une vraie belle réussite. Évidemment, Mayence n'avait rien à faire à la dernière place du classement. Mais moi, je trouve que c'est pour les coachs, savoir comment tu récupères un club comme ça, qui est en difficulté en Europe, quand je dis en difficulté, c'est qu'à l'époque, ils n'étaient pas forcément dans le top 8 de la C4. Ils étaient derniers du classement. Il n'y avait que des mecs qui sont complètement cramés. On a une mini trêve, et encore, on a de la chance par rapport à d'autres pays pour essayer de récupérer le maximum. On a des joueurs titulaires qui sont blessés, etc., et qu'il arrive de faire ce boulot. Moi, je trouve ça extraordinaire. Dans un match à 6 points contre Brême, ils sont allés l'emporter là-bas, et ça n'a l'air de rien, mais ça se trouve, cette victoire, ça va être le signe qu'ils vont se maintenir en fin de saison. Donc, moi, chapeau, Urs Fischer.
Chapeau, Urs Fischer, le coach suisse de Mayence. Julien, il y a un gamin chez toi, hein, ton club Arsenal, qui est entré à la 74e, je crois. On en a déjà parlé rapidement. On va aller doucement avec lui, même si lui va très très vite. Il a à peine 16 ans. Il a débloqué la situation pour les Gunners face à Everton. Max Dowman.
Ouais, on avait parlé, rappelez-vous, pour ceux qui nous écoutent régulièrement, quand il avait fait ses débuts en Premier League déjà, au mois d'août, contre Leeds. Ensuite, il était entré en Ligue des Champions, en devenant le plus jeune joueur de l'histoire à jouer en Ligue des Champions, puisqu'il avait même pas encore 16 ans. Il a eu 16 ans à la fin du mois de décembre. Et donc là, à 16 ans et 73 jours, il entre en jeu, comme tu l'as dit, Nico, pour le dernier quart d'heure, dans un match qui était très fermé. Everton a très bien défendu. Ils ont très bien joué d'ailleurs aussi. Arsenal avait un petit peu de mal à trouver la solution, à débloquer la situation, tout ça. Et puis ce gamin-là est entré avec déjà le talent qu'il a, parce que c'est un talent incroyable, sûrement un des plus grands talents qu'un centre de formation ait produit, qu'un club ait produit en Angleterre. Faut réfléchir, faut penser à des Rooney, à des gens comme ça, mais ce niveau-là, c'est juste incroyable, ce degré de précocité, de maturité à cet âge-là.
Dans quel secteur,
talent.
À quel niveau, vision du jeu, rapport au ballon,
tout, ouais, la vitesse,
l'exécution.
Il a un pied gauche extraordinaire, il fait déjà 1m81 alors qu'il a que 16 ans. Enfin, il a déjà un corps d'homme en fait, et puis surtout, il fait tous les choix sont bons, quoi. Et c'est vrai qu'il débloque le match, il fait un centre. Bon, Pickford se trouve un petit peu sur le centre, c'est sûr, mais qui arrive sur le but de Gyökeres. Et puis surtout, à la fin, c'est lui qui marque. Quand Pickford est monté sur un dernier corner, et puis il traverse tout le terrain en dribblant deux joueurs. Le premier, la tête devant Mykolenko, je pense qu'on l'aurait tous fait, celle-là. Elle, c'est facile, il n'y a que ça à faire. Moi, ce qui m'impressionne, c'est le crochet intérieur pied droit alors qu'il est gaucher. Et puis après, il court, il se rend compte à un moment qu'ils sont en train de rattraper derrière, donc il réaccélère un tout petit peu à la fin pour marquer dans le but vide devant un stade en ébullition incroyable. Voilà, Max Dowman aujourd'hui, il était parti, il a été à l'école, il était au lycée. Dans 15 jours, il a son brevet blanc. Il n'a pas le droit de se changer dans le vestiaire des pros. Il doit être tout seul dans un vestiaire avec un accompagnateur.
Ah oui, parce que c'est un bon mineur, il a 16 ans.
Parce qu'il
c'est
est mineur, il a 16 ans. Ses parents doivent donner l'autorisation pour qu'il aille à l'extérieur en Coupe d'Europe pour pouvoir voyager avec l'équipe. Et encore une fois, quand ils sont allés, quand ils vont à l'extérieur en Ligue des Champions, ils se changent tout seuls avant le match, après le match dans le vestiaire. C'est une vie. Qui est extraordinaire.
C'est un bon gamin
dans
ou pas
sens.
Je m'imagine que tu connais un petit peu. Bon gamin, Max Domas.
Oui, très bon,
bien structuré.
Ouais, on l'a vu grandir. Oui, très bien. Il a des parents qui veillent bien un peu à la façon des Mbappé, dans le sens où c'est le bon environnement familial et tout ça. Mais oui, mais après il a un don extraordinaire, quoi. C'est aussi simple que ça. Il y a pas, à 16 ans et 73 jours, tu peux pas faire des choses comme ça en première ligue. C'était vraiment pas spécial. Alors après, il a battu par exemple le record en première ligue, parce que dans l'histoire du football anglais, il reste deuxième. Il y a un joueur dans les années 80 qui jouait à Ipswich qui était encore plus jeune, mais qui n'a pas eu une grande carrière. Le joueur qu'il a battu dans l'histoire de la Première Ligue, c'est James Vaughan. Je pense que beaucoup d'entre vous ne savent pas qui est James Vaughan, et beaucoup des auditeurs non plus. Et pourtant, à 16 ans et 280 jours, je crois, quand il marque pour Everton, tout le monde se dit ouais, « ça va être un super numéro 9, l'avenir du football anglais, etc. » Et en fait, pas du tout. Donc je sais que c'est encore très tôt pour parler à quel niveau il aura, ou qu'est-ce qu'il va réussir dans sa carrière, etc., etc. Mais quand même, ça trompe pas. Pour ceux qui connaissent le foot, quand tu vois un joueur pareil, t'en vois un tous les 25 ans par génération.
Max Robert Doman, né le 31 décembre 2009. Edgar, il n'y aura pas de finalissima. J'ai même oublié qu'il y avait ce rendez-vous-là entre le champion d'Europe et le champion d'Amérique du Sud, Espagne-Argentine. C'était prévu le 27 mars. Pourquoi il n'y aura pas? Pourquoi c'est annulé?
Alors, ça devait se passer au Qatar. Finalement, avec la situation géopolitique, ils ont cherché un nouvel endroit pour accueillir ce match, et donc a été proposé le Bernabéu en Espagne, et l'Argentine a officiellement refusé en disant que c'était à cause du fait que c'était pas un terrain neutre, évidemment, parce que ça se passait en Espagne, même si évidemment à Madrid il y a énormément d'Argentins qui auraient pu être en tribune aussi, mais l'Argentine a refusé, et finalement ils ont décidé, faute de solution, d'annuler ce match-là. Mais l'événement aussi de la journée, c'est a été tard hier soir d'ailleurs, le rédacteur en chef de AS, celui qui est chargé en tout cas du foot à l'international, le foot international, a publié un article en expliquant que la véritable raison, selon lui, pour laquelle le match ne s'était pas tenu en Argentine, c'était en Espagne, c'était à cause d'une affaire qui suit le président de la Fédé Argentine, Claudio Tapia, parce qu'il serait soupçonné d'évasion fiscale en Argentine, 11 millions d'euros, et il pourrait actuellement pas quitter le territoire national sans l'autorisation de la justice.
Merveilleux, ça, quand même. Donc il n'y aurait pas de match à cause de la situation fiscale du président de la Fédération.
On fait grève dans le championnat argentin il n'y a pas si longtemps. Juan Sebastián Verón est à la tête de ça, justement, à cause de ces embrouilles-là.
Et il aurait utilisé, en fait, des sociétés écrans en Espagne, et donc en fait il aurait été menacé, s'il venait voir le match au Bernabéu, potentiellement d'être embêté par la justice espagnole, qui suit aussi la situation et qui aurait pu l'arrêter pour l'interroger. Et donc d'après AS, en tout cas, ce serait la vraie raison de cette annulation de la finalissima. Et bon, je sais qu'on s'en fiche, en France on s'en fiche de la finalissima, mais en Espagne et j'imagine aussi un petit peu plus aussi en Argentine, en Espagne c'était un match important parce que c'était
Messi, c'est ça, bien sûr.
Et c'était l'occasion de montrer aux Argentins que les Espagnols étaient meilleurs qu'eux, etc. Ouais. Il y a quand même une rivalité. Il y a beaucoup d'Argentins aussi en Espagne, notamment à Madrid. Donc il y avait une histoire derrière ce match-là qui fait qu'il y a quand même de la déception en Espagne de ne pas avoir ce match.
C'est un match en moins, c'est pas dramatique dans le calendrier. Daniele, on a zappé le Milan ce soir, malheureusement. Tu as une minute pour me dire pourquoi le Milan ne veut pas de Scudetto.
Ouais, parce qu'Allegri, il n'a pas envie, en fait.
Il n'a pas envie d'être champion, quoi.
Non, à chaque fois qu'il se rapproche de l'Inter, il dit mais non, on n'est pas fait pour courir. Même après le match.
Vous pouvez revenir à 5 points, je précise, en cas de victoire contre la Lazio, raté, défaite.
Oui, ils ont retourné à moins 8. Et après le match, Allegri, il a même dit ils n'étaient pas réalistes, c'est qu'ils ont parlé de championnat. Donc il n'a pas parlé d'occasion ratée. Mais il a dit mais pourquoi vous avez cru avant? Pourquoi vous avez regardé le match même? Il aurait pu demander, parce que les supporters derrière les matchs pour voir l'équipe qui gagne. Mais bon, après le Milan, c'est vrai que c'est déjà beaucoup qui est deuxième d'ailleurs. Naples, il est à moins 1.
C'est ça.
Donc,
plus qu'un
il
point
faut
d'avance.
Qu'il garde la deuxième place.
Ouais. C'est ça, exactement. Pour un retour en Ligue des Champions la saison prochaine. On fera plus loin la prochaine fois sur le Milan. On me dit, Polo, on a bossé, Najib en régie. Meilleur passeur histoire Bundesliga, un certain Thomas Müller, 21 passes décisives.
Oui, c'est vrai. C'est vrai
saison
c'est
19-20 vrai. Avec le FC Bayern, bien sûr, déjà.
Je devrais y penser systématiquement non, avec son duo. Avec son duo avec Lewandowski, évidemment.
Tout à fait. Merci, Polo, Edgar, Julien et Daniele. On vous retrouve cette semaine pour les matchs de Coupe d'Europe, Ligue des Champions, Ligue Europa et Conférence League. Dans un instant, l'after sur RMC prend le relais. Edouard G, rapidement, le temps, le score. Annecy 3 en Ligue 2.
Ça a repris depuis 6 minutes et le score n'a pas changé. C'est toujours Annecy qui est devant sur un but de Moïse Aïdou à la 42e. Donc 1-0 pour Annecy face au leader troyen.
Et la Fiorentina mène 3-0 désormais sur le terrain de la Crémonaise. Et Daniele avec un but superbe. Allez le voir de Dodo pour la Fiorentina. L'after arrive. Bonne soirée à tous sur RMC.
Génération After.